Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1 pour une nouvelle édition d'Europe Midi. Deux heures d'information que j'ai le plaisir de vous présenter avec Maxime Switek. Bonjour Maxime.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous.
Et en compagnie d'Anissa, bonjour Anissa.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous.
La politique, disait un ancien président de la République, c'est l'art de choisir ses mots. Ce matin sur Europe 1, face à Thomas Soto, le ministre Jean-Marie Le Guen a traité de grincheux ceux qui, à gauche, ne sont pas d'accord avec la réforme du code de travail que propose le gouvernement. Mais s'il est candidat l'année prochaine, François Hollande aura bien besoin des grincheux pour être élu président. Vous savez quel est le surnom de Jean-Marie Le Guen au Parti Socialiste ? Johnny, parce qu'il met le feu ! Et hier toujours, le pape François a condamné l'avortement en le comparant, je cite le pape, « au crime de la mafia ». Une femme qui interrompt sa grossesse est souvent seule, parfois désemparée. Et rien n'est plus faux que de comparer son acte au cynisme froid, sordide et vénal d'un tueur de la mafia. Le pape a un surnom. Vous savez lequel ? Johnny, parce qu'il met le feu. Europe Midi, c'est parti.
Vous écoutez Europe 1, il est midi. 12h, 14h, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek sur Europe 1.
À la une de l'actualité, les vacances d'hiver ce week-end est celui des plus gros départs et des plus gros retours, des embouteillages en perspective, mais aussi des grèves. Parce que figurez-vous que dans les gares de la région lyonnaise, on annonce des mouvements sociaux. Pour ce week-end, nous vous donnerons tous les détails dès le début de ce journal. Les autres titres de l'actualité avec vous, Maxime Switek.
À Bruxelles, où en est-on ? À midi, les 28 dirigeants de l'Union européenne sont réunis en sommet depuis hier soir. Débat très tendu autour des migrants. Suspense toujours en cours autour du Brexit, toujours pas d'accord. On fera un point complet en direct de Bruxelles à midi 10. Midi 20, la conférence très musclée du pape François, vous en parliez. Il attaque Donald Trump, il compare l'avortement au crime de la mafia, mais dans le même temps, il explique que parfois la contraception est un moindre mal. Et puis le retour d'un des plus gros vendeurs de disques de ces dernières années en France, Christophe Maé, nouveau single, nouvel album. Nous vous ferons écouter ça juste avant midi et demi.
13h10, qui a dit, quand on est un chrétien et qu'on a face à soi des migrants, on construit des ponts et pas des murs. Eh ben, c'est toujours le pape. Et si vous êtes chrétien et si vous aimez pas les migrants, 39-21, nous serons heureux de recueillir vos avis et vos témoignages sur l'antenne d'Europe 1 à partir de 13h10. C'est tout de suite avec vous, Valérie Darmon, la météo. Cet après-midi, c'est assez simple. Nous sommes entre deux perturbations.
Oui, celle d'hier ou ce qu'il en reste qui donne encore un peu de neige de l'Alsace au nord des Alpes. La seconde qui arrive en ce moment sur la pointe bretonne, un petit peu pluvieuse. Et puis entre les deux, le ciel qui s'ennuie tranquillement. Les températures sont de retour dans les normales de saison. 4 à 7 degrés de l'Alsace au Massif central et à Rhône-Alpes pour les plus fraîches. 10, 12 sur les régions côtières et 14 à 18 sur la Côte d'Azur.
Merci Valérie, nous vous retrouvons à 12h28 pour un point complet sur la météo.
Europe Midi sur Europe 1.
C'est les vacances. Oh, pas pour tout le monde bien sûr, mais c'est les vacances.
Résumons, fin des vacances d'hiver ce week-end pour la zone B, la zone A est en plein dedans, c'est le début des vacances pour la zone C, pardon, celle de Paris, Toulouse et Montpellier notamment. Bref, quand vous ajoutez tout ça, vous comprenez qu'il y aura du monde sur les routes, ce sera noir demain en Rhône-Alpes dans le sens des départs, rouge pour les retours. Il y aura du monde aussi dans les gares, dans la région de Lyon, vers les stations de ski évidemment, mais là, petite surprise du chef, avec une grève sur les lignes de TER. Rémi Pierre, vous êtes à Chambéry, on attend de grosses difficultés ce week-end.
Eh oui Maxime, parce qu'avec au maximum 7 TER sur 10 sur les principales lignes d'accès aux stations de Savoie, de Haute-Savoie et de l'Isère, eh bien ça va forcément se bousculer. Alors ici, le hall de la gare se remplit peu à peu de voyageurs. Ils viennent directement se renseigner au guichet pour savoir si leur train circule bien. Et les premières difficultés commencent, comme pour cette famille que j'ai croisée et qui arrive péniblement de la Tarentaise. Leur train avait du retard. Conséquence, ils ont raté leur TGV. Le prochain ne sera que peu avant 13h. Evelyne, de son côté, a elle un peu galéré depuis ce matin pour un trajet qui devait normalement la mener tranquillement avec son petit garçon Hugo de Genève jusqu'à Lyon.
On devait prendre notre train à 9h30 à Genève, qui était annulé. On est ensuite monté dans un train à 10h où on devait descendre à Aix-les-Bains, mais la correspondance à Aix-les-Bains était également annulée. Donc on est descendu à Chambéry et on devrait reprendre un train vers midi pour y arriver à 13h30 sur Lyon. Donc 2h de retard, oui.
Ça reste une petite galère pour l'instant.
Oui, oui, exactement, c'est une petite galère. Donc je croise les doigts pour que le dernier train parte à l'heure.
Alors vous l'avez dit, les difficultés devraient aller crescendo cet après-midi, mais surtout demain, journée noir sur les quais comme sur les routes.
Rémi Pierre, reportage depuis Chambéry pour Europe 1. Merci Rémi.
Bonjour Morgan Tanguy.
Bonjour.
Vous êtes sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, donc vous attendez sûrement beaucoup de monde ce week-end.
Oui, effectivement, un week-end extrêmement chargé, puisque nous avons trois zones en vacances scolaires. Donc un week-end avec 67 000 environ dans le sens véhicule, dans le sens de la montée, 71 000 dans le sens de la descente.
Ah, vous êtes aussi précis que ça sur le nombre de voitures, 67 000 qui descendent et 71 000 qui montent.
Exactement.
Ah bah,
tout à fait. On a des prévisions tout à fait stables d'un week-end sur l'autre, avec des réunions que nous conduisons le vendredi matin avec l'ensemble des services de l'État et l'ensemble des services des routes pour établir une prévision de trafic sur les week-ends et les trois jours du week-end, du vendredi au dimanche.
Voilà. Alors l'année dernière, Morgan Tanguy, je ne sais pas si vous étiez déjà à ce poste-là, mais des chutes de neige importantes avaient évidemment compliqué le trafic. Et des milliers de personnes avaient dû être hébergées ici et là dans des lieux de fortune. Vous prévoyez ce week-end sur le plan de la météo plus calme? Vous avez pris des dispositions?
Alors, ce week-end que nous annonce Météo France est plutôt un week-end calme au niveau de la météo. Quelques chutes de neige à hauteur de 1500 mètres, mais en dessous, peu ou pas de chutes de neige. Donc, ce qui est toujours très inquiétant et la manière de gérer le trafic routier, c'est lorsque nous avons de la neige en fond de vallée et en vallée. Ce qui ne sera pas le cas pour ce week-end, pas plus pour la journée de samedi que pour la journée de dimanche, qui devrait plutôt être belle. Donc, au niveau météo, on a de quoi être rassuré pour ces deux jours à venir.
C'est quoi votre inquiétude, les mouvements sociaux que l'on annonce sur le réseau SNCF?
Alors, quelques mouvements sociaux, effectivement, sur la SNCF, notamment sur le trafic TER. Ce que nous a confirmé la SNCF, c'est que 80% des TER circuleront demain dans les deux vallées alpines de la Savoie, à la fois sur la Tarentaise et sur la Maurienne. Donc, l'ensemble des moyens et des dispositifs de la SNCF ont été mis en place de sorte à ce que les touristes puissent accéder correctement aux stations et 100% des TGV seront assurés au départ des grandes gares parisiennes vers les stations alpines de la Tarentaise et de la Maurienne.
Donc a priori, Morgan Tanguy, du côté de la Savoie, vous êtes assez serein, autant qu'on puisse l'être, et je ne vous demande évidemment pas de vous engager de quelque manière que ce soit, mais vous êtes à peu près serein avant ce grand chassé-croisé sur les routes.
Oui, une sérénité avec une vigilance qui s'impose. Nous activerons ce que nous appelons le PC Osiris, qui est le PC circulation en Savoie, avec l'ensemble des services gendarmerie et police demain, mais comme n'importe quel grand week-end de chasse et croisée. Donc au niveau météo et sur l'ensemble du trafic routier, nous avons de quoi être à peu près sereins pour le week-end qui s'annonce.
Voilà, c'est un propos qui intéresse sans doute tous ceux qui préparent leur départ, que ce soit la descente ou la montée de la montagne, les choses devraient bien se passer. Merci Morgan Tanguy, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1.
Europe 1. Il est 12h07, Europe Midi, la suite du journal. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Trump, l'avortement, la contraception, le pape François abordait tous ces sujets explosifs en rentrant du Mexique. Conférence de presse musclée, on en parle à 12h20, mais d'abord Jean-Michel.
D'abord toujours ce double suspense à Bruxelles.
Suspense autour du Brexit et des migrants. On va commencer par là, Isabelle Horry, vous êtes en direct de Bruxelles pour Europe 1. On va commencer par les migrants parce que pour le moment, c'est sur ce point que les discussions ont été les plus tendues. On peut dire que les 6 heures de débat à 28 ont dégénéré, Isabelle?
Oui, il y a eu des moments tendus cette nuit, hein, dit pudiquement l'un de ceux qui étaient autour de la table. En fait, hier soir, c'est l'Autriche qui a bouleversé l'ordre du jour. Par surprise, le chancelier autrichien a pris une décision radicale. Il ne laisse plus entrer que 80 migrants par jour dans son pays. C'est très peu par rapport à ceux qui essayent d'entrer. Même si la Commission européenne lui a dit que légalement c'était interdit, eh bien il refuse de revenir en arrière. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la route vers l'Allemagne ou la Suède se ferme pour ces migrants. Et si d'autres pays font la même chose, beaucoup sont tentés, nous dit-on. Le risque, rapidement, c'est que tout simplement des centaines de milliers de personnes se retrouvent coincées en Grèce. Du coup, les Européens ont décidé de convoquer en urgence un autre sommet. Dans 2 semaines, déjà, la Turquie sera là aussi. Faisons simple, hein, il leur reste 2 semaines pour faire enfin fonctionner la politique de répartition des migrants qu'ils ont adoptée et qui n'a pas marché jusqu'ici. Sinon, cette fois, eh bien, c'est bien le plan B qui se dessine, le plan du retour aux frontières nationales.
Isabelle, sur le Brexit, la menace de voir la Grande-Bretagne quitter l'Union, là-dessus, toujours pas d'accord?
Eh bien non, parce que tout a été retardé. Alors, il y a eu des tête-à-tête jusqu'à l'aube sur ce deuxième sujet. Les dirigeants viennent de revenir dans le bâtiment où se déroule la réunion. Au programme, encore des tête-à-tête. Différents pays, dont la France, par exemple, ont des objections diverses et variées. Alors d'abord, on nous avait annoncé un petit déjeuner anglais à 10h. Il devait réunir tout le monde pour conclure. Puis c'est devenu un brunch à 11h. Et maintenant, à l'heure qu'il est, on nous annonce un déjeuner anglais à 28 à 13h30. Toujours pas d'accord, je fais ce que je peux, a affirmé David Cameron en entrant il y a quelques minutes.
Et préparez-vous à dîner à Bruxelles. Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1. Que répondra la Grande-Bretagne si un référendum est organisé en juin, oui ou non à l'Union ?
Yes or no.
Sébastien Krebs, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Vous êtes précisément à Clacton-on-Sea, c'est à 100 km au nord de Londres.
Bien.
C'est la seule ville d'Angleterre à avoir élu un député d'extrême droite. Autant dire qu'à Clacton, on est très eurosceptique et qu'on n'accorde que très peu d'importance à tout ce qui se dit aujourd'hui à Bruxelles.
Ah oui, dans cette petite ville du bord de mer, on n'attend vraiment rien des discussions en cours à Bruxelles. Peu importe ce que David Cameron ramène, ce qu'il faut, c'est sortir de l'Europe, répète ce jardinier accoudé au pub, qui serait presque impatient de pouvoir voter en faveur du Brexit.
Tous les gens que je connais feront pareil. Il faut fermer les frontières, il y a trop de gens au chômage. Et on laisse venir toujours plus d'étrangers qui viennent prendre nos emplois.
L'immigration est dans toutes les conversations dans cette station balnéaire un peu ancienne où les retraités venus s'installer en nombre ont remplacé les touristes. On croise par exemple des anciens combattants qui ont toujours une dent contre l'Allemagne et surtout beaucoup de couples issus des milieux modestes qui ne voient pas pourquoi l'Europe devrait décider quoi que ce soit pour eux.
Mais c'est à nous de décider. Ils nous forcent à payer des allocations pour leurs enfants à l'étranger. Ils nous dictent ce qu'on doit faire.
On a perdu notre liberté. Je ne veux pas être européenne, moi je suis anglaise. Pourquoi on devrait faire les choses en commun ? Laissez-nous être qui on est.
Bruxelles paraît bien loin, personne ne vous parle ici d'un sentiment européen, encore moins de la construction européenne. L'esprit général, c'est que la Grande-Bretagne se porte bien mieux en restant sur son île et en se limitant à des relations de bon voisinage, rien de plus, avec le reste de l'Europe.
Sébastien Krebs, envoyé spécial à Clacton-on-Sea pour Europe 1.
C'était il y a deux jours, une conseillère de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron était tuée par un agriculteur.
Ce matin, le procureur a donné les résultats de l'autopsie. La mort de la jeune femme de 26 ans est due à la fois à une strangulation et à une noyade. Elle avait été jetée dans un étang. Benjamin Peter, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans la région. Benjamin, le procureur a également donné des précisions sur l'agriculteur qui a été arrêté. Les psychiatres viennent de se pencher sur son cas.
Oui, deux experts l'ont rencontré à la demande du parquet. Et pour eux, cet homme de 47 ans souffre de délire paranoïaque. Il faut dire que dès son arrestation, il tenait des propos incohérents et en garde à vue alors qu'il avait retrouvé son calme. Il a expliqué aux enquêteurs que depuis plusieurs jours, des choses n'allaient pas à la ferme, chez les hommes, mais aussi chez les animaux. Et la coupable pour lui est toute désignée, c'est Elodie, cette jeune technicienne de la chambre d'agriculture qui vient pourtant l'aider chaque mois. Dans son délire, il s'est imaginé qu'il fallait qu'il la tue pour que ça cesse, explique le procureur. Il a tout préparé pour ça. Il s'est emparé de ses clés de voiture qui étaient restées sur le contact pour éviter qu'elle s'échappe. Puis il l'a étranglée avant de la noyer dans l'étang à une centaine de mètres plus loin.
Benjamin, vu ce que vous nous dites ce midi, reste la possibilité au final qu'il soit considéré comme irresponsable ?
Eh bien, c'est tout l'enjeu désormais. Et la plus grande crainte pour les proches d'Elodie qui redoutent qu'il n'y ait jamais de procès. Pour le moment, les psychiatres estiment que son état est compatible avec un déferlement devant le juge d'instruction. Ce sera à lui maintenant de nommer un collège de deux nouveaux experts chargés de déterminer si oui ou non son discernement a pu être altéré au moment des faits. En attendant, le parquet a requis son placement en détention provisoire et doit ouvrir une information judiciaire pour assassinat.
Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse.
Il est 12h13 sur Europe 1. Europe midi jusqu'à 14h. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Avec le pape qui avait visiblement très envie de parler de retour du Mexique, conférence de presse parfois virulente, on en parle dans deux minutes sur Europe 1. A tout de suite.
Tous les jours, midi 14h.
Europe midi. Il est midi et quart sur Europe 1, la suite d'Europe Midi. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek, journal que vous pouvez suivre en vidéo sur Europe1.fr.
Visiblement, le pape François était encore en forme après sa visite au Mexique. Dans l'avion qu'il ramenait à Rome, il s'est adressé aux journalistes et il a abordé plein de sujets, parfois des thèmes sur lesquels on ne l'attendait pas et dans des termes qu'on n'attendait pas forcément non plus. Écoutez par exemple ce qu'il dit du favori de la primaire des Républicains aux États-Unis, Donald Trump.
Une personne qui pense avant tout à faire des murs, où qu'il se trouve, et non des ponts, n'est pas chrétien.
Oui, et Donald Trump a répondu d'ailleurs hier, et Maxime, il a dit, quand un responsable religieux met en doute la foi de quelqu'un, c'est honteux. Bonjour Caroline Pigozzi.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Paris Match, chroniqueuse sur Europe 1. Vous étiez dans l'avion qui ramenait le pape du Mexique, puisque vous suivez le Vatican. Vous connaissez bien le pape François. Il est en forme?
Et on n'avait pas encore bu de la tequila parce qu'il y a eu des batailles de coussins. On a bu de la tequila. C'est toujours très euphorique les voyages du pape parce que comme on le suit, il ne s'arrête jamais, il dort jamais. Pour tenir le coup, on est obligé, voilà, pas de se droguer, mais de faire des choses un peu comme ça.
Vous avez bu de la tequila avec le pape?
Vous, les journalistes. Lui, il a bu du jus d'orange.
Il boit du jus d'orange. Oui. D'accord. Alors, oui, il était particulièrement en forme. Son propos sur les migrants est tout de même assez fort. Quand il y a des migrants, on ne construit pas des murs, on construit des ponts. Il y a beaucoup de catholiques, peut-être en France d'ailleurs, qui ne sont pas trop d'accord avec ça.
Bon, d'abord, il s'appelle un souverain pontife. Les souverains pontifs, ça construit des ponts. Et puis, les migrants, c'est quand même un des sujets de sa vie. Quand il était en Argentine, nous, ce pape, on le voit que d'Europe, il a quand même dit, quand il a été élu, je viens presque du bout du monde. C'est viscéral pour lui, les problèmes des migrants. Quand il était en Argentine, il allait dans le port de Buenos Aires, il voyait arriver des migrants, il se battait avec le maire qui est devenu le président de la République pour qu'on les laisse entrer, pour qu'on construise des écoles. C'est le sujet de sa vie. C'est un pape qui est complètement social. Donc, il est dans la logique de son système. Évidemment, quand autour du monde on entend ça, surtout dans des pays quand même complètement, enfin presque abrités, je dirais, on ne comprend pas bien ça.
Oui. Mais pour lui, Europe, on peut imaginer que parmi les catholiques, beaucoup, là, pour le coup, après tout, c'est légitime, ça fait partie de la vie, Beaucoup ne sont pas d'accord ou ne reçoivent pas favorablement, positivement, les propos du pape.
Mais je crois que si on ne se met pas dans la tête qu'il est d'abord latino-américain, argentin, il était sur son terrain, il était chez lui, on l'a vu pendant la messe, on l'a vu à chaque instant, on l'a vu avec la messe des migrants, et qu'on pense pas à ça, et qu'en plus les jésuites est donc progressiste, on voit pas comment ils fonctionnent.
D'accord. Alors vous avez accepté, Caroline Pigozzi, puisqu'on a fait un appel aux auditeurs d'Europe 1 sur ce sujet-là, les migrants, les propos du pape, vous avez accepté de rester avec nous à partir de 13h10 et vous dialoguerez avec les auditeurs d'Europe 1 sur ce sujet. Le pape là en a profité pour dire de Donald Trump, c'est assez rare qu'un pape excommunie en public une personnalité, Donald Trump il n'est pas chrétien. Ça, quand même, c'était un peu étonnant quand même, j'imagine, de l'entendre dire ça, non?
Bon, d'abord, on lui a posé la question, et comme il est bien élevé et démocratique, il répond aux questions des journalistes. C'est le premier pape avec lequel il y a des conférences de presse ne sont pas filtrées, parce qu'avant, il y avait des conférences de presse avec Benoît XVI, Padre Lombardi prenait les questions, et on les donnait au pape ou pas. Là, on peut poser toutes les questions qu'on veut, donc il y a un vrai dialogue. D'autre part, pour lui, Donald Trump, c'est un gros capitaliste, comme il les déteste, c'est cette image la pire pour lui, vous pouvez imaginer, vu son fonctionnement. Ouais. Rien que le mot Trump, il a ses sourcils qui se hérissent, comme ça. Donc, c'est évidemment, enfin, on savait à peu près quelle allait être la réponse. Et puis, ça lui permet de dire qu'il n'est pas politique tout en passant un grand message politique. Oui, parce que ce pape, il est avant tout un homme politique. On le sait aussi.
C'est ce que dit Donald Trump. Donald Trump dit, s'il y a quelqu'un qui fait de la politique, c'est le pape.
Ça c'est vrai, on ne peut pas le nier. C'est un renard, comme les jésuites, reviens à ça.
Et il a tort, Donald Trump, de dire qu'un responsable religieux met en doute la foi de quelqu'un, c'est honteux?
Écoutez, dans un pays où il y a 23% de catholiques, à sa place, je serais un peu plus prudent, néanmoins.
Ah oui, mais ça, vous voulez dire que ça peut nuire à Donald Trump dans sa campagne?
Ce pape, il est pragmatique, il est sans doute plus que Donald Trump.
Ses propos sur l'interruption volontaire de grossesse, on appelle ça aussi l'avortement, mais l'interruption volontaire de grossesse, alors le pape dit j'y suis opposé, ça on le comprend, il dit c'est un crime, d'autres papes avant lui l'ont dit, mais il dit, c'est, je vais citer précisément, toute personne qui veut faire disparaître l'autre, eh bien c'est ce que fait la mafia. C'est même un peu excessif, non?
Vous savez, pour lui, les enfants, c'est viscéral. Quand il descend de l'avion, il se rase parce qu'il sait qu'il va embrasser des enfants. Et c'est un sujet, c'est complètement passionnel. C'est pas négociable, le problème des enfants. Donc, de l'avortement, c'est un des sujets
qui... Est-ce qu'on peut introduire la mafia dans le raisonnement?
Vous savez que lui, il a des métaphores excessives parce qu'il se dit, si je dis ça, il en reste au moins 30 ou 40%. C'est son fonctionnement. De même qu'il revient toujours sur les mêmes sujets. Il y a une espèce de cerveau complètement circulaire. Il revient, il martèle. Et donc, il se dit, c'est terrible ce que je dis, mais au moins, il en restera quelque chose. C'est ce qu'il faut décrypter, c'est son fonctionnement.
Quand vous l'avez entendu, vous avez réagi comment?
Moi, je l'entends tellement souvent que je me suis dit ça. Je me suis dit, bon, là, il est un peu excessif, il y va fort. Mais c'est ce qu'il veut, parce que s'il avait dit des choses tout à fait banales, vous ne me poseriez pas la question.
Mais vous l'avez trouvé excessif. Et on ne dit pas souvent au pape, c'est trop.
J'ai trouvé que si on lui dit avec beaucoup de courtoisie...
Quelqu'un lui a dit?
Oui, ça arrive. pas là, pas là. Mais voilà, ça arrive, d'accord. Tout à fait, il accepte la critique, et là j'ai trouvé qu'il était tel à son, exactement comme il est sur son fonctionnement. Moi ça m'a pas frappé, d'ailleurs les journalistes dans l'avion n'étaient pas particulièrement frappés, parce que nous on est un peu sur ce sujet-là, je dirais presque aseptisés, tellement on voyage avec lui et qu'on le connaît. La principale des qualités qu'on doit avoir quand on le suit, c'est la santé, parce qu'il ne dort jamais, 4-5 heures par nuit, donc on doit faire pareil.
Ou boire de la tequila pour tenir le coup.
Voilà, c'est ça, faire des batailles de coussins après.
Bon, en tout cas on s'ennuie pas dans les voyages du pape.
Pas du tout, on vient voyager, je suis rentrée hier soir et
vous êtes en pleine forme. C'est aussi une information, Caroline Pigaudier. Donc merci de rester, je le répète, avec les auditeurs d'Europe 1. Nous vous sollicitons. Beaucoup de migrants frappent aux portes de l'Europe. Nous ne les accueillons pas beaucoup en France, par exemple. En Allemagne, beaucoup ont été accueillis, mais en France, on a plutôt du mal. Le pape dit « accueillez les migrants », il l'a dit avec ces mots. Vous les avez entendus, 39-21. Nous en parlons ensemble à partir de 13h10 sur l'antenne d'Europe 1.
Et le 39-21, c'est 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Vous pouvez également réagir à cette info sur Twitter avec le hashtag E1Midi. Europe 1. Il est 12h21, la suite du journal, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
30 heures de garde à vue pour avoir pris des passagers en covoiturage. C'est ce que vient de vivre un Lillois, mais pour comprendre ces 30 heures de garde à vue, il faut raconter toute l'histoire. L'été dernier, ce père de famille d'origine turque s'inscrit sur Blablacar. Il est sur le point de partir pour la Turquie en vacances et il lui reste quelques places dans son minibus. Une famille le contacte et le jeune homme emmène donc tout le monde. Ce qu'il ne savait pas, Lionel Gougelot, c'est qu'en faisant cela, il est un peu devenu malgré lui le complice d'une famille qui partait faire le djihad.
Oui, effectivement. Et le plus terrible, Maxime, c'est que durant les deux jours du voyage au volant de son minibus, eh bien, Tounsel, c'est son prénom, n'avait rien soupçonné des intentions de cette famille d'origine marocaine, un couple et ses trois enfants qui disaient vouloir découvrir Istanbul. Il n'imaginait pas qu'il les conduisait en fait sur la route du djihad.
Bien que madame porte le voile intégral, je n'ai pas eu d'inquiétude particulière à ce niveau-là, quoi. Donc je me suis rendu compte de rien, mais au même en cours de route, j'aurais eu ne serait-ce qu'un soupçon, quitte à les laisser sur le bord de la route, ne serait-ce que pour les enfants, peut-être que j'aurais, au jour d'aujourd'hui, sauvé ces enfants. Je suis moi-même père de 4 enfants et je ne peux qu'être touché par ce qui a pu arriver pour ces enfants. J'ai passé 2 jours et demi avec un petit garçon adorable, réalisé au jour d'aujourd'hui que ce garçon est peut-être mort à cause de la folie de ses parents. Alors c'est désolant et puis surtout que moi qui suis d'obédience musulmane, rien ne légitime un départ pour faire le djihad.
Alors en fait, ce sont les proches de cette famille de djihadistes partis rejoindre Daesh en Irak qui vont retrouver la trace de Tounsel via la fameuse petite annonce Blablacar. Lundi, les policiers du raid débarquent en force chez le père de famille qui se fait interpeller devant ses enfants. Perquisition, garde à vue, il tombe littéralement des nues.
Malheureusement, je faisais partie du scénario. J'étais la seule personne, la dernière personne à avoir vu ces gens vivants en France. Et il est tout à fait normal qu'ils fassent une enquête. Mais ce que je reproche justement, c'est cet excès de force qui est totalement abusif et injustifié. Donc je ne comprends pas et je suis encore sous le choc au jour d'aujourd'hui.
Une arrestation abusive, donc vous l'avez compris, un traumatisme aussi dont Tounsel espère obtenir réparation puisqu'à ce jour, aucune charge n'a été retenue contre lui.
À Lionel Gougelot en direct de Lille pour Europe 1.
Il vend des disques par million et il est de retour dans les bacs.
Oui, Christophe Maé sort un nouvel album au mois de mai, mais il a dévoilé ce matin son nouveau single que nous allons écouter grâce à vous, Céline Kallmann. Céline, juste pour resituer, on a tous déjà entendu Christophe Maé.
Mais oui, Christophe Maé, c'est le chanteur qui a réussi à écrire des chansons qui vous trottent dans la tête pendant longtemps.
Et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. On s'attache,
qui s'est classé directement numéro 1 du top 50 en 2007. Alors, vous pensez
là,
avoir cette chanson
journée, hein.
Non, vous pensez avoir cette chanson dans la tête pour le reste de la journée. Attendez un peu d'écouter son dernier single qui est donc sorti aujourd'hui. 3 ans après Je veux du bonheur, Christophe Maé, 40 ans dont 10 ans de carrière, reste dans le thème. Pour ce nouvel album, il a écrit plusieurs titres en duo avec Paul École, un auteur qui a aussi collaboré avec Calogero. Donc pas plus de suspense, je vous laisse découvrir un extrait de son dernier single, Il est où le bonheur.
Il est où le bonheur, il est où. Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est là le bonheur ? Il est là ? Il est là ? Il est là le bonheur ? Il est là ?
Il est là ?
Il est là
ici dans ce studio ?
Ah oui, ça c'est sûr.
Ah d'accord.
Et à nos confrères du Parisien, le chanteur se confie. Après les attentats de 2015, il faut que les habitants de ce pays avancent main dans la main. J'espère aussi que l'on fera confiance aux gens qui nous gouvernent pour nous protéger. Finalement, c'est vrai qu'on se la pose tous, cette question.
Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est là le bonheur ? Il est là ? Il est là ?
Il est là, c'est bon.
Il est là le bonheur ? Il est là ?
Elle laisser le chanter Christophe Maé.
Oui, ça c'est vrai qu'il chante mieux que moi, oui. Laissons-le chanter.
Single de Christophe Maé, le nouvel album au mois de mai. Merci beaucoup Céline Kallmann.
Il est 12h25 sur Europe 1, Europe Midi jusqu'à 14h. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Dans un instant, les titres de midi et demi, un nouveau journal sur Europe 1 avec à la une notre espérance de vie. Rien n'y fait, les inégalités entre ouvriers et cadres persistent, nous restons inégaux face à la mort.
Et c'est un sujet que nous traiterons avec les invités d'Europe Midi à partir de 12h40, l'INSEE dit donc que nous vivons, les cadres vivent 6 ans de plus que les ouvriers et les hommes. Et les femmes, en revanche, c'est différent. Les femmes sont beaucoup plus résistantes quand elles sont ouvrières. Et puis nous parlerons de Apple qui résiste, elle, à la NSA, l'Institut de renseignement américain. Apple refuse d'aider les autorités américaines dans une affaire de terrorisme. Elle préfère protéger la confidentialité et la sécurité de ses clients. Et puis, il y a exactement 100 ans se déclenchait la bataille de Verdun. Et nous en parlerons avec un historien. 1 million de morts dans cette bataille horrible il y a un siècle. Et donc nous en parlerons tout à l'heure. Il est où le bonheur? Il est sur Europe. Valérie Darmon, demain c'est le premier chassé-croisé des vacances d'hiver. Alors quel temps fera-t-il?
Alors tout gris, avec de la neige jusqu'en plaine, des 300 mètres en Lorraine, Alsace, Franche-Comté. Dès cette nuit et toute la matinée, la pluie qui prendra le relais de la neige dès la mi-journée sur ces régions et un vent d'ouest en plus qui va se remettre à souffler entre 50 et 70 km heure. Après les éclaircies de ces 24 heures, l'ouest de la France, jusque sur la région parisienne, va renouer avec un ciel gris et la pluie sous forme de bruine toute la journée. Et plus au sud, les nuages vont laisser passer un peu plus de soleil de l'Aquitaine au Massif central, mais le tapis nuageux reste quand même très épais sur l'ensemble de la vallée de la Garonne. Des Pyrénées à la Méditerranée, le soleil brille nettement plus et le vent s'apaise. Et puis en revanche, il va faire de plus en plus doux tout le week-end. Les maximales seront en hausse avec un peu plus de fraîcheur résiduelle sur le Massif central. Elles vont atteindre 12 à 15 degrés, 20 degrés annoncés dimanche tout de même en Provence.
Et à Biarritz ?
Biarritz.
Vous n'avez pas les températures de Biarritz.
Je vais vous donner les températures de Biarritz tout de suite. Le temps que je regarde mes notes.
Oui, vous n'avez pas pensé.
Ça,
c'est pas
les minimales. C'est 5 degrés demain et 15 degrés l'après-midi tout de même. Bon, mais c'est pas la maximale des maximales.
Vous vous êtes bien rattrapé, Valérie Darmon. Voilà. Merci. On vous retrouve à 12h38 pour une météo des neiges.
Il est midi et demi sur Europe 1. La suite d'Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Bienvenue sur Europe 1. Nous accueillons notamment avec plaisir ceux qui nous rejoignent à l'instant dans Europe Midi. Maxime Switek, les titres de l'actualité.
Et à la une, les tout derniers chiffres sur notre espérance de vie. Oui, elle progresse pour tout le monde, mais attention, les inégalités persistent entre hommes et femmes, entre ouvriers et cadres. On fera le point dès le début de ce journal. Apple fait de la résistance. Le géant américain n'a pas l'intention d'aider les enquêteurs qui cherchent à décrypter aux États-Unis le portable d'un terroriste. Dans ce journal également, François Hollande qui essaie de calmer le jeu. Le président ne veut pas passer en force sur la réforme du code du travail. Et puis, la dure vie des supporters de foot. Ils sont de plus en plus souvent interdits de déplacement. On leur explique que les policiers ont autre chose à faire que d'éviter les débordements autour des stades.
Europe Midi sur Europe 1.
Pour l'espérance de vie, mieux vaut être cadre qu'ouvrier.
C'est l'INSEE qui le confirme. L'INSEE dit deux choses. Tout le monde vit plus vieux qu'avant. Les hommes, par exemple, ont gagné 7 ans d'espérance de vie depuis la fin des années 70. Mais l'INSEE montre aussi que lorsque l'on regarde les statistiques dans le détail, les inégalités n'ont absolument pas reculé, Mélanie Gomez.
Effectivement, Maxime, si on prend donc les hommes, d'abord on voit certes que depuis les années 70, ils ont gagné, vous l'avez dit, en moyenne 7 ans d'espérance de vie. Donc à 35 ans, ils peuvent espérer vivre encore 44 années. En revanche, quand on regarde dans le détail, il ressort qu'en 30 ans, les écarts entre les catégories sociales se sont maintenus. Concrètement, un homme cadre vit toujours 6 ans de plus qu'un ouvrier. Cela veut dire qu'en 2016, la nature même de la profession influence encore fortement l'espérance de vie. En clair, travailler sur des chantiers, par exemple, expose toujours plus à des risques professionnels, des accidents, des maladies que travailler dans une banque. Et puis même en matière de santé, les choses n'ont pas beaucoup bougé en 3 décennies. Les cadres ont toujours de meilleurs modes de vie, moins de tabagisme, moins d'obésité notamment, et surtout, ils ont plus recours au système de soins. Et puis, pour la première fois, l'INSEE a analysé l'impact du niveau de diplôme sur l'espérance de vie. Résultat, là aussi, même constat, plus les études sont longues, plus on vit longtemps. Pour vous donner une idée, un homme avec un master vit près de 2 ans de plus que celui qui a juste le bac, 3 ans et demi de plus qu'un titulaire d'un CAP, et jusqu'à 7 ans et demi de plus qu'un homme sans aucun diplôme. Enfin, dernière inégalité en matière d'espérance de vie, quel que soit leur diplôme, leur niveau social, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, meilleur mode de vie, meilleur accès aux soins, notamment grâce aux grossesses. Résultat, une femme ouvrière vit en moyenne un an de plus qu'un homme cadre.
Merci Mélanie Gomez.
Et nous évoquerons cette étude de l'INSEE avec Emmanuel Cambois, qui est le démographe et chercheuse à l'INED, dans quelques minutes avec les invités d'Europe Midi.
Toujours aucun accord à Bruxelles sur le Brexit. Les discussions se poursuivent ce midi. Hier soir, les débats sur les migrants ont été houleux. L'Autriche a annoncé que dorénavant, elle n'accepterait sur son sol que 80 migrants par jour. La politique, on en parlait ici même hier, le projet de réforme du Code du travail, projet du gouvernement, qui a mis le feu à la gauche du PS. La ministre du Travail n'écartait pas hier de passer en force par le 49-3. Nous prendrons nos responsabilités, a dit Myriam El Khomri. Mais là, David Doucan, François Hollande, calme le jeu. Le président ne veut pas d'un passage en force sur cette question.
Oui, absolument, vous avez raison. Ce n'est pas du tout ce qu'il souhaite. C'est plutôt Manuel Valls qui a poussé Myriam El Khomri à évoquer le 49-3 pour mettre la pression maximum dès le début. Mais cette méthode-là ne convient pas à François Hollande parce que le président, eh bien, il a une échéance électorale. Il ne veut pas se lancer éventuellement dans une présidentielle en ayant une nouvelle fois brutalisé sa majorité avec le canon lourd du 49-3. Ce qu'il veut, c'est convaincre, débattre, pourquoi pas amender le texte afin d'aller chercher une majorité.
Et pourtant, ça hurle depuis hier. Les frondeurs se sont, comme d'habitude d'ailleurs, jetés sur les plateaux de télé et de radio.
Oui, et le pari du gouvernement, c'est que cela se limitera à l'habituelle minorité de frondeurs. Et d'ailleurs, le ministre des Relations avec le Parlement essaye de les ringardiser. En fait, on peut même dire que Jean-Marie Le Guen ne les supporte plus. Écoutez, c'était ce matin sur Europe 1 avec Thomas Soto.
Pour une partie de la gauche, tout ce qui existait il y a 40 ans, c'était super. C'est-à-dire, c'est la gauche du conservatisme. Vous n'avez pas entendu parler de ces grincheux qui sont là depuis 3 ans, qui s'expriment régulièrement sur vos antennes?
Donc aujourd'hui,
j'entendais hier
aujourd'hui,
soir, Myriam
pensez...
El Khomri n'avait même pas le temps de présenter son texte, qu'un député grincheux venait pour critiquer un texte qu'il n'avait même pas eu encore l'occasion de lire.
Jean-Marie Le Guen est sûr et certain que le texte obtiendra une majorité. Il ne nie pas que ça pourrait passer par quelques ajustements, même s'il assure que l'esprit de la loi restera intact. Nous verrons cela au mois d'avril, lorsque la réforme sera débattue à l'Assemblée.
Merci David Doucan.
Vous êtes grincheux, c'est-à-dire vous êtes de gauche, et vous n'aimez pas le projet de loi de Myriam El Khomri. 39-21 à 13h10, vos grincheries, je ne sais pas si ça se dit, mais vos grincheries seront les bienvenues sur Europe 1.
Europe 1. Il est 12h34, Europe Midi, la suite du journal. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Autre grand titre à la une ce midi, le bras de fer entre Apple et la justice américaine. En décembre dernier, un couple avait ouvert le feu à San Bernardino en Californie. 14 morts, ce couple est suspecté d'avoir eu des liens avec des djihadistes. Le problème, c'est que les enquêteurs n'arrivent pas à décrypter l'un des téléphones des tireurs. La justice a ordonné à Apple d'aider la police, mais Sébastien Guyot, Apple refuse. Avec quels arguments?
Eh bien, avec deux arguments principaux, l'abus de pouvoir des autorités américaines et la protection des libertés individuelles. Alors, que demande précisément Apple, la justice à Apple? Je cite le tribunal de Los Angeles, fournir une assistance technique raisonnable au FBI. Car aujourd'hui, le téléphone d'un des deux terroristes est totalement bloqué, crypté, sauf qu'au bout de 10 tentatives infructueuses, toutes les données seraient effacées. Alors Apple est donc instamment pressé de développer un logiciel qui permettrait au FBI de tester un très grand nombre de mots de passe pour débloquer l'iPhone. Vous allez me dire, il n'y a pas raison de s'y opposer, nous sommes dans une affaire de terrorisme. Oui, mais voilà, il y a eu les abus de la NSA dans le passé, les grandes oreilles américaines accusées d'espionnage à grande échelle. Edward Snowden l'a prouvé. Conséquence, depuis septembre 2014, Apple a mis en place ce qu'on appelle des chiffrements. Alors c'est un terme un peu barbare pour dire que les iPhones sont devenus de véritables forteresses. En gros, Apple a créé une serrure, mais seul l'utilisateur a la clé. Alors concrètement, techniquement même, la marque à la pomme pourrait créer ce logiciel, sauf que Tim Cook, le patron d'Apple, craint des dérives auprès de ses consommateurs, et ils sont quand même quelques-uns à travers le monde, plus d'un milliard d'iPhones et d'iPads déjà vendus à travers le monde.
Merci Sébastien Guyot. C'est une décision radicale, mais elle s'impose de plus en plus. De plus en plus souvent, les supporters de clubs de foot français se voient interdits de déplacement, raison invoquée par les autorités. Les gendarmes mobiles, les CRS sont très sollicités depuis les attentats et ils ont autre chose à faire que de sécuriser les abords des stades. Des interdictions de déplacement, Julien Pierce, il y en a donc de plus en plus, leur nombre a explosé.
Ah oui Maxime, pour vous donner une idée, on peut comparer en 2011, l'année où cette mesure a été utilisée pour la première fois, 3 rencontres avaient été concernées. Aujourd'hui, pour la saison 2015-2016, si on fait les comptes, plus de 190 matchs matchs déjà ont fait l'objet d'une interdiction de déplacement des supporters. C'est colossal, c'est du jamais vu. À seulement 5 mois de l'Euro, les stades sonnent de plus en plus creux, se désole Pierre Barthélémy, c'est l'avocat de plusieurs groupes de supporters. Il dénonce les arguments mis en avant par les autorités.
On a déjà vu pour un match entre Lens et Bastia l'invocation d'un incident en 1979. Et donc du coup, si une fois une personne a allumé un fumigène, là on interdit 1500 personnes de venir. Parfois c'est le fait qu'ils ont besoin de déplacer les forces de l'ordre à d'autres points stratégiques. À Nantes, souvent ils invoquent des manifestations contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Mais parfois c'est beaucoup plus grotesque, puisque pour les rencontres entre Troyes et Rennes ou Troyes et Nantes, il a été dit que les policiers devaient prioritairement surveiller les magasins pendant les soldes.
Surveiller les magasins pendant les soldes. À la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme, on assume totalement ses choix, même quand il s'agit de simples rencontres de 4e division. Ça a été le cas le mois dernier. Les supporters de Grenoble n'ont pas eu le droit de se rendre à Saint-Louis dans le Haut-Rhin. Cette mesure, m'a-t-on dit, permet de prévenir les débordements tout en utilisant au mieux les forces de l'ordre. En clair, avec le risque terroriste, la priorité est ailleurs. Il faut ménager policiers et gendarmes, les utiliser à bon escient. Interdire aux supporters de l'équipe adverse de venir au match permettrait, m'a-t-on dit, ainsi de réduire par 4 le nombre de fonctionnaires aux abords du stade.
Enquête Europe 1, signé Julien Pierce. Merci. Merci Julien. Le début des vacances pour la zone C ce soir, la zone de Paris, Toulouse, Montpellier notamment, week-end très chargé du côté des stations de ski. La journée sera noire demain en Rhône-Alpes dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. Et puisque l'on parle des vacances...
La météo des neiges, c'est bien. Avec Midas, c'est mieux. Qui dit mieux, dit Midas.
Royal.
Ne dites Bravo. Rien Jean-Michel.
Mais si, il faut toujours que je dise
ne
quelque chose.
Ne dites rien Jean-Michel.
Je salue votre talent Maxime.
Valérie Darmon, la météo des neiges s'il vous plaît.
Oui, avec la perturbation d'hier qui s'évacue par l'est en donnant de petites chutes de neige mêlées à la pluie des Ardennes, à l'Alsace et de la Bourgogne aux vallées alpines aujourd'hui. Elles disparaissent au fil des heures et seuls quelques flocons vont persister cet après-midi sur le Jura et le nord des Alpes. Neige qui se remettra à tomber en fin de nuit et demain matin dès 300 mètres entre la Lorraine et le sud du Jura. Sinon ailleurs, pas de chute de neige aujourd'hui et du très beau temps, donc très belle journée en perspective. Si vous êtes déjà en vacances à Luchon, super bannière, 0 degré cet après-midi, 1 à la Pierre Saint-Martin sous le soleil, très beau temps à Sauze, à Serre-Chevalier, au Grand Bornand avec des valeurs entre 1 et 5 degrés. Et puis à partir de Val d'Isère, de Morzine, de Chamonix, jusqu'aux Rousses dans les Vosges, ça ne se lèvera pas.
Merci Valérie Darmon et bonnes vacances.
Vous êtes en vacances Valérie Darmon?
Non, là vous voyez.
Ah non, bonnes vacances, en général, les auditeurs.
Oui,
d'accord. Mais les auditeurs, ils sont encore avec nous.
Ils peuvent être en vacances avec nous.
Ils viennent d'écouter le journal formidable de Maxime Switek. Et maintenant, les invités d'Europe Midi, nous parlerons du bras de fer qui oppose Apple au FBI, de l'étude de l'INSEE qui dit que les cadres vivent plus longtemps que les ouvriers, et de la guerre de Verdun. Elle a démarré. C'est une boucherie épouvantable. Il y a exactement un siècle. D'ailleurs, je vous le signale, Franck Ferrand consacrera aussi son émission au cœur de l'histoire. Cette bataille de Verdun. A tout de suite.
Tous les jours, midi 14h.
Europe Midi.
Il est 12h41 sur Europe 1. La suite d'Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Les invités d'Europe Midi, comme tous les jours, trois sujets d'actualité, trois invités en direct avec nous, Jean-Michel.
Il y a un siècle, c'était le 21 février 1916, démarrait la boucherie de Verdun qui a profondément marqué les esprits et nous en parlons, puisque c'est un centenaire évidemment qu'il faut commémorer. Il y aura beaucoup d'événements à ce propos avec Nicolas Offenstadt. Bonjour Monsieur Offenstadt.
Bonjour.
Vous êtes historien, co-auteur de La Grande Guerre et carnet de centenaire chez Albin Michel. Et donc vous connaissez bien cette bataille horrible qui a fait 1 million de morts. Elle est peut-être un peu sortie de nos mémoires, mais...
300 000 plutôt.
Ah, pardon.
C'est les pertes que vous... On confond souvent, c'est normal, les pertes. Hein,
c'est normal. Bon, vous me rassurez.
Je vous raconterai tout ça.
Donc, je ne suis pas trop malade. Tout va bien. Avec Emmanuel Cambois. Bonjour, Emmanuel Cambois. Vous êtes démographe et chercheuse à l'INED. Une étude de l'INSEE nous dit, alors c'est ancien, mais en fait, l'écart ne se réduit pas. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi que l'on vit plus longtemps quand on est cadre que quand on est ouvrier. Et nous commençons avec ce conflit qui nous a beaucoup intéressés parce que le terrorisme renouvelle beaucoup de problématiques. Ce conflit entre Apple et les autorités américaines. Nous évoquons ce conflit avec Nicolas Harpagian. Bonjour Monsieur Harpagian.
Bonjour.
Vous êtes directeur scientifique du cycle sécurité numérique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Pour enquêter sur l'attentat qui a fait 14 morts en décembre à San Bernardino en Floride, un tribunal de Floride, les autorités américaines, souhaitent qu'Apple déverrouille un de leurs téléphones. C'est un iPhone 5C. Et Apple refuse. Alors tout de même, on est assez stupéfait de voir une entreprise, pour une affaire de terrorisme, dire à un gouvernement « on ne vous aidera pas ». dans cette affaire sur le terrorisme.
En fait, l'entreprise joue une partie de son modèle économique. Pourquoi ? Parce que les révélations d'Edward Snowden en juin 2013 ont fait peser une suspicion sur la coopération, la collaboration des entreprises états-uniennes avec les autorités gouvernementales. Et ça a créé un sentiment d'inquiétude. Pas encore de désaffection, mais d'inquiétude, une atteinte à la réputation, une atteinte à la confiance. Les clients se disent, tiens, celui que je paye n'est pas forcément celui qui me protège.
Il peut me trahir.
Voilà, exactement.
Il peut collaborer.
Le client n'est pas forcément le roi. Et donc, effectivement, ça pose la question de l'image qu'elles veulent donner. Et donc, elles sont prises dans une situation ambivalente. Effectivement, ne pas trahir leurs clients, ceux qui payent, mais également être de bons citoyens américains, puisque on se rappelle de la phrase de Marissa Mayer, la patronne de Yahoo, qui avait dit « Si je ne respecte pas la loi américaine, c'est de la trahison ». Et donc, ces entreprises sont effectivement dans une situation totalement ambivalente.
Apple a reçu le soutien de Google, d'ailleurs. Hein.
Oui, parce que là, effectivement, la grande famille du numérique se tient les coudes. Pourquoi ? Parce que ils ont le même problème de commercial, le même problème de réputation, le même problème de confiance. Ce qui est certain, c'est que là, on a deux théories qui s'affrontent, c'est-à-dire ce que proposent les services de renseignement qui souhaitent avoir un accès permanent, continu, avec ce qu'on appelle les backdoors, ces portes derrière, c'est-à-dire un système, et également des services de police qui disent, moi, ce que je voudrais, c'est que lorsqu'un magistrat le demande, ponctuellement, vous le fassiez. Alors, les entreprises du numérique, ont pris une option qui est de transférer à chaque particulier, à chaque appareil, c'est le téléphone, où se trouve la clé de chiffrement, de manière à se dédouaner en quelque sorte en disant, vous voyez, ce n'est même pas moi qui l'ai, elle est chez le propriétaire de chaque téléphone. On voit bien en tout cas que se pose la question de ces outils numériques, à la fois dans l'économie, mais également dans la lutte antiterroriste.
En France, il n'y a pas ce problème-là aujourd'hui, parce que, pour le coup, les opérateurs sont souvent sollicités par les pouvoirs publics.
Alors,
opérateurs ne sont pas des fabricants de téléphones.
Exactement, parce que le chiffrement est bien dans le téléphone. Par contre, se pose la question, notamment les enquêteurs, quelquefois se disent, après tout, les métadonnées, ce qu'on appelle les métadonnées, qui permettent, globalement, on sait qui a appelé qui, quand, pendant combien de temps. Et c'est vrai que quand vous avez déjà identifié quelqu'un et que vous pouvez ainsi identifier donc son réseau d'interlocuteurs, de contacts, certains disent, mais après tout, le contenu de la communication a peu d'importance. Prenons une analogie. Moi, je connais votre numéro de téléphone. Je sais que vous êtes en train d'appeler régulièrement un numéro que j'ai identifié comme étant celui d'un médecin. Mmh. Bon, je vais en conclure qu'apparemment, vous avez une pathologie liée à la spécialité du médecin en question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça devient un vrai sujet public. La seule chose, c'est qu'il faut garder à l'esprit que l'opinion publique elle-même à ce paradoxe de considérer que, évidemment, elle trouve légitime que l'on poursuive les terroristes ou les candidats au terrorisme, mais ils se disent effectivement la notion de vie privée est rediscutée. Mais elle est déjà rediscutée à partir du moment où Google a une vision intégrale de vos déplacements lorsque vous avez un téléphone Android, lorsque vous avez une boîte Gmail, lorsque vous utilisez Chrome, il y a déjà, on se retrouve dans la situation un peu paradoxale où un acteur commercial qui n'établit pas des lois mais des conditions générales d'utilisation, c'est-à-dire des règles de droit qu'il est le seul à émettre, qui sont univoques, puisque quand vous signez, quand vous vous inscrivez sur Facebook, vous n'êtes pas dans une relation contractuelle d'égal à égal, puisque vous acceptez des conditions, et même de temps en temps, vous avez des mises à jour où on vous dit si vous ne les acceptez pas, effectivement, la relation se rompt là. Et donc, on voit bien que ces entreprises apprécient le côté autoritaire quand elles entretiennent une relation avec les consommateurs que nous sommes. Leur rôle politique, elles ont beaucoup plus de mal à l'assumer. Parce que, effectivement, on touche à un domaine qui est la confiance, et la confiance dans le domaine du numérique, c'est important. La qualité de service est importante. Elles se rappellent que les entreprises du numérique sont mortes, quelquefois, justement, du désintérêt des utilisateurs, c'est ce qui les inquiète aussi.
Voilà, donc on verra combien de temps Apple résistera au FBI.
Et puis rappelez-vous qu'elles peuvent collaborer sans avertir les utilisateurs, donc il peut y avoir une scène de théâtre, mais dans l'arrière-boutique, ils collaboreront en toute discrétion.
On peut quand même donner des renseignements et considérer que la lutte contre le terrorisme vaut quelques accrocs au contrat de confiance qu'on passe avec les consommateurs. Merci Nicolas Arpagian, directeur scientifique du cycle Sécurité numérique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, d'avoir accepté d'être l'invité d'Europe Midi.
Europe 1. Il est 12h47 sur Europe 1, la suite des invités d'Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek, invités que vous pouvez suivre en vidéo sur europe1.fr.
Les inégalités persistent face à la mort ou face à l'espérance de vie, c'est comme vous voulez. Les cadres vivent en moyenne toujours plus que les ouvriers. On en parlait dans le journal, mais nous allons plus loin grâce aux invités d'Europe Midi.
Voilà, donc c'est une étude de l'INSEE qui dit cela, Emmanuel Cambon. Il n'y a rien de nouveau puisque l'écart entre l'espérance de vie des cadres et des ouvriers, on la constate depuis 30 ou 40 ans déjà.
Exactement.
Pourquoi ça ne se réduit pas?
Elle se maintient. Elle ne se réduit pas parce que les expositions aux différents risques de santé et de mortalité progressent, mais progressent pour toutes les catégories. Donc les cadres continuent à avancer dans leur avantage face à la mortalité. Les ouvriers avancent, mais restent toujours avec le même écart.
Parce que les ouvriers, on peut comprendre, ils sont confrontés à des maladies professionnelles, à des accidents du travail. Ça veut dire qu'ils sont encore très très exposés à ces risques professionnels-là. Ils demeurent très exposés.
Tout à fait. La catégorie des ouvriers représente des risques professionnels qui restent encore très concentrés dans cette catégorie et reflètent effectivement des conditions de vie au travail qui peuvent amener des risques de santé plus importants.
Si on regarde dans le détail, les femmes s'en sortent mieux. Les femmes d'ouvriers ont une espérance de vie qui est plus grande que les hommes. C'est-à-dire que l'écart là est plus réduit pour les femmes, seulement 3 ans par rapport aux femmes de cadre ou aux femmes cadres. Pardon, aux femmes cadres.
C'est les femmes ouvrières et non pas les femmes d'ouvriers.
Les femmes ouvrières, c'est ça, oui. J'ai mis des articles en trop partout.
Mais ce que vous dites est très important parce
oui,
que...
Je le dis mal, mais c'était important.
Justement, l'intérêt de ces chiffres est de montrer ces écarts. Et ces écarts plus réduits chez les femmes, en fait, reflètent en partie le fait que ces catégories de professions ne reflètent pas les mêmes conditions de vie chez les hommes et chez les femmes. Et par exemple, si chez les hommes on voit des écarts aussi importants, c'est parce que les catégories d'ouvriers et de cadres, chacune de leur côté, reflètent un cumul de conditions de vie, de situations favorables pour les cadres et défavorables pour les ouvriers. Or, chez les femmes, ce repérage du niveau de vie, de la situation sociale par les professions est beaucoup moins pertinent, si je peux dire. Les catégories que représentent ces professions sont beaucoup plus hétérogènes chez les femmes en termes de conditions de vie.
Mais concrètement, les femmes ont une vie professionnelle moins exposée au risque ou c'est leur vie
personnelle? Ça n'est pas exactement, la réalité. En fait, les hommes et les femmes sont exposés à des risques différents. D'ailleurs, c'est ce qui explique ces écarts d'espérance de vie entre hommes et femmes. Les femmes sont exposées à toutes sortes de maladies qui sont moins systématiquement mortelles que celles des hommes. D'accord. Mais qui induisent de nombreuses difficultés de santé par ailleurs. Donc les femmes survivent plus aux hommes, mais survivent avec plus de problèmes de santé. Et ceci s'explique aussi par les risques particuliers qu'elles vivent au cours de leur carrière. Carrières qui, je le rappelle, sont assez différentes encore aujourd'hui entre hommes et femmes. Ce repérage par les catégories de profession pourrait être affiné et montrer des inégalités très fortes chez les femmes aussi, si on repérait des situations de vie, des niveaux de vie plus fins et plus pertinents pour la catégorie, pour la population féminine.
Voilà, merci Emmanuelle Cambois, démographe, chercheuse à l'INED, de nous avoir aidé à mieux comprendre cette étude de l'INSEE qui dit que l'espérance de vie des cadres en France est supérieure de 7 ans pour les hommes, 3 ans pour les femmes. Aux ouvriers. Merci Emmanuelle Cambois.
Europe 1. Il est 12h51 sur Europe 1. La suite des invités d'Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Le souvenir d'une bataille dans les invités d'Europe Midi. 1916, la bataille de Verdun, c'était il y a tout juste 100 ans.
Alors, je vais essayer de ne pas me tromper dans les chiffres, Nicolas Offenstadt. 378 000 Français morts ou blessés sur le champ de bataille et 333 000 Allemands morts ou blessés sur le champ de bataille.
Voilà, c'est les pertes, comme on dit.
La boucherie de Verdun, c'est ça.
Absolument.
Pourquoi Verdun? Qu'est-ce qui s'est passé à Verdun? Qui a décidé d'attaquer à Verdun et comment ça s'est passé?
D'abord, ce sont les Allemands. Hein. C'est une attaque allemande. Hein. C'est une attaque du haut commandement allemand à l'époque dirigé par Falkenhayn et qui a décidé de porter une offensive importante sur l'armée française et notamment pour éviter la montée en puissance des Britanniques. Alors pourquoi Verdun? Il n'y a pas beaucoup de raisons. En réalité, l'idée était de percer le front et sans doute Verdun faisait partie d'un dispositif plus important. Pourquoi Verdun? Parce que c'est un saillant dans les lignes allemandes, donc c'est dangereux. Hein, ça risque d'exposer les Allemands au flanc des armées françaises, donc géographiquement il faut réduire ce saillant. Ensuite, c'est une place qui n'est pas très bien défendue à l'époque, parce que vous savez, le front il est long, donc on ne peut pas mettre des troupes et une organisation parfaite sur 800 km de ligne de front, donc c'est pas très bien défendu. D'accord. C'est plutôt un maillon faible, les forts ont plutôt été désarmés, et le quartier général français n'attendait pas une attaque sur Verdun. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que Verdun n'est qu'une bataille parmi sans doute une plus grande envisagée par le commandement allemand.
Qu'il n'a pas pu mener.
Parce que la résistance a été trop grande, parce que le plan a échoué et qu'effectivement les lignes françaises n'ont pas été percées. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en 14-18, hein, à partir de la fin 14, les lignes des deux côtés, ce sont des tranchées. Donc c'est une guerre de siège. C'est une guerre fixe. Et ce qui obsède le commandement, aussi bien français et allemand, c'est de repasser à une guerre de mouvement pour l'emporter. Donc il faut percer.
Le mot central, c'est la percée. Il faut percer le front, faire bouger les lignes, et ensuite on pourra marcher vers Paris pour les Allemands. Et c'est ce qui va échouer à Verdun, puisqu'il n'y aura aucune percée. On va avancer certes de quelques kilomètres, mais jamais suffisamment pour que le front soit véritablement éventré.
Il y a eu d'autres théâtres absolument horribles dans cette guerre de 14 et 18, et Verdun a l'air d'être quelque chose de particulier dans la mémoire. Pourquoi ?
Oui, c'est une question fondamentale. Pourquoi est-ce que Verdun est resté aussi fortement dans la mémoire, alors que, comme vous l'avez dit, il y a eu des batailles plus meurtrières ? Et les batailles de 1915 sont terribles, en Champagne, en Artois. Elles sont terribles dans la Somme, hein, juste au moment de Verdun, en juillet 1916. Elles seront terribles au chemin des Dames. Alors la question, c'est pourquoi Verdun ?
Oui.
Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a énormément de soldats français qui ont participé avec le système de la rotation, de la noria. On a renouvelé très fréquemment les troupes. Donc on a un peu l'impression que c'est la bataille de l'armée française. Et puis surtout, un point fondamental, c'est que Verdun, c'est une bataille défensive. Donc les Français peuvent se poser en héros. C'est pas eux qui attaquent, ce sont pas eux les agresseurs. Ils défendent.
Il y a une bravoure extraordinaire.
Il y a une bravoure extraordinaire, mais il y en a ailleurs. Ce qui est important, c'est que c'est une bravoure défensive. Parce que qui a attaqué en 1915, en fait ? Ce sont les Français qui ont attaqué en Artois et en Champagne. Qui attaque dans la Somme en juillet 1916 ? Ce sont les Anglais et les Français. Qui attaque au chemin des Dames ? C'est encore les Français. Donc la posture de l'agresseur est toujours plus difficile à mythifier. Tandis que là, c'est vraiment les défenseurs. Et on défend quoi ? On défend le sol de la patrie. Et on le défend vraiment parce que les Allemands ont percé au début. Ils ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Mais il y avait un véritable danger, hein, en février 1916. Donc c'est une défense héroïque du sol de la patrie. Et c'est d'une certaine manière la seule victoire défensive de la guerre, c'est pour ça qu'elle a été héroïsée. Et ensuite, il y a tout un discours qui a intégré Verdun au grand roman national, hein, des victoires françaises, de l'héroïsme patriotique. On a même inventé ce mot qui est assez étonnant, dès l'époque, l'idée du soldat de Verdun. Comme si le soldat de Verdun était différent du soldat.
Ça, on a oublié un peu après.
On a oublié, mais c'est un mot qui était très important.
Ça voulait dire quoi, le soldat
de Verdun ? Ça voulait dire celui qui s'est véritablement battu à Verdun et qui a eu cet héroïsme spécifique que on n'avait pas, au moins, dans d'autres terrains d'opération avant ou après. Alors pourquoi est-ce que ça se justifie juste d'un mot ?
Oui.
Oui, il y a une spécificité dans la bataille de Verdun, c'est que sans doute le terrain était moins organisé pour les raisons que je vous ai dites. Donc on combattait dans des trous d'obus qui étaient mal reliés. Il y avait moins de bonnes défenses, donc c'était sans doute une bataille effroyable pour les soldats. Donc il y a aussi une justification, mais elle a été renforcée par cette volonté d'inscrire une bataille défensive dans le roman national.
Et donc dans le travail de mémoire autour de cette guerre de 14 et 18, cette année est un peu particulière puisqu'il y aura beaucoup de commémorations autour de Verdun.
Oui, c'est une année particulière, mais c'est, on peut dire, la deuxième saison du centenaire parce qu'il y a déjà eu l'année 2014 qui a été extrêmement riche. Alors le point d'orgue, il faut le dire, c'est pas véritablement le début de la bataille en février, mais c'est fin mai où doivent se rencontrer sur le champ de bataille Angela Merkel et François Hollande pour un grand moment franco-allemand, hein, qui doit évidemment faire penser au remake de
Kohl et François Mitterrand
à Verdun. Et puis dans un moment, et ça c'est très important, où évidemment la relation franco-allemande est beaucoup plus tendue et beaucoup plus difficile. Donc il va se jouer aussi un événement politique.
Voilà. Merci Nicolas Hoffenstadt, historien, co-auteur de La Grande Guerre, carnet de centenaire chez Albin Michel. Le temps d'un sourire, Nicolas Canteloup, morceau choisi de la revue de presse.
Serge Aurier est en Suisse. Le défenseur du PSG qui avait traité Laurent Blanc de fiotte a été mis au vert par son équipe avant une explication lundi. Ça se passera dans les bureaux, là, pour le coup. Bonjour, Laurent Blanc.
Oui, bonjour. Écoutez, nonobstant la colère légitime qui est toujours ressentie d'un main fort intérieur, je crois qu'il est légitime que Serge aille se planquer en Suisse chez des gens qui ont, disons-le, la réputation d'être polis.
Ça va, Laurent, redescend sur terre, tu sais. Il t'a juste traité de fiotte, c'est tout.
Ouais, salut Raymond, tu trouves que j'en fais trop, là?
Bah, écoute, moi, Anelka, à l'époque, il m'avait dit qu'il allait me faire enculer, excuse-moi, c'est autre chose. Puis mes joueurs ont fait grève, ça, c'était pas de la gnognotte. Toi, tu te serais évanoui à l'époque, tu vois.
Ouais. Non, effectivement, bonjour, c'est Didier Deschamps. Non, franchement.
Voilà, oui. Alors.
Non, Raymond a raison, regarde-moi, Laurent. J'en ai un qui se filme à poil et l'autre qui essaye de faire chanter avec une vidéo. Non, j'en fais pas tout un cake, il faut vraiment que tu passes l'éponge, hein, Laurent. Non, ça, je crois que c'est évident.
Ouais, mais ouais, moi je suis Laurent, moi qu'est-ce que je devrais dire? Guy Varche à l'investière, tu sais ce qu'il m'a dit un jour, Guy Varche? Il me dit, coach, je voudrais être titulaire.
Non, mais aimer, c'est pas une insulte. Ah ben, pour le football, je peux dire, le football n'a pas apprécié. Hein. C'était une insulte au football. Et je ne suis pas mort. Hein. Je suis toujours là.
Alors, muscle ton jeu, Laurent. Montre-lui qui c'est le patron, Aurier. Tu lui casses les deux genoux avec une barre de fer. T'en as rien à foutre. Tu le feras plus jouer, de toute façon.
Nicolas Cantelou, morceau choisi de la revue de presse.
Et la revue de presse de Nicolas Cantelou, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 8h40 en direct dans la matinale de Thomas Soto. Et puis vous pouvez profiter du week-end bien sûr pour réécouter les podcasts sur Europe1.fr. Il est 12h58.
La météo, Valérie Darmon, quel temps ce week-end?
Alors demain, neige des 300 mètres sur les Vosges, le Jura, l'Alsace, la Lorraine, la Champagne. Quand il ne neige pas, il pleut. Le beau temps revient à partir de la Franche-Comté. Normandie, région parisienne, Picardie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Centre et Gironde. Il fait gris toute la journée et plus ou moins bruineux. Triste à souhait. Nuageux et sec des Landes à la moyenne vallée du Rhône. Beau temps sur l'extrême sud. Dimanche, pas de changement au nord, sauf qu'il ne neige plus dans l'est et que le soleil brille sur les deux tiers sud cette fois. Les températures remontent partout avec 20 degrés annoncés en Provence dimanche. 18 à Biarritz, spécialement pour vous Jean-Michel.
Merci beaucoup.
Et un petit peu pour Maxime.
J'apprécie vraiment. Oui, Maxime voilà. Aussi est parfois à Biarritz. Donc 18.
Je vais pas là.
C'est 18 à Biarritz dimanche.
18, mais voilà. Vous avez donné une météo heureusement plus complète que celle-là. Et je vous en remercie Valérie Darmon.
Très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Il est 13h. La suite d'Europe Midi, c'est avec vous Jean-Michel Apathy.
13h et le journal d'Europe 1 présenté par Christophe Carré. Bonjour Christophe.
Bonjour, toujours pas d'accord à Bruxelles sur le Brexit. Les négociations ont repris, nous irons sur place, elles s'annoncent marathon. Manuel Valls à Gao au Mali auprès des forces françaises engagées dans l'opération Barkhane. Nous retrouverons l'envoyé spécial d'Europe 1. Gros week-end de chassés croisés sur les routes et dans les trains. Situation compliquée en Rhône-Alpes avec en plus une grève des TER. Le souvenir de la terrible bataille de Verdun, c'était il y a 100 ans. Le mémorial rouvre ses portes dimanche après 2 ans de travaux.
Europe Midi sur Europe 1.
Un compte à rebours et des éclats de voix. Les discussions sont très très tendues au sommet européen de Bruxelles.
Oui, hier soir c'est la question des migrants qui a éclipsé tout le reste. Les négociations se sont prolongées jusque tard dans la nuit. Ce matin c'est le dossier du Brexit qui a été posé sur la table. Comment trouver un compromis pour éviter la sortie des Britanniques de l'Union européenne? Ça discute, ça négocie. Isabelle Horry, on vous retrouve pour Europe 1 en direct de Bruxelles. La réunion est bien partie pour s'éterniser.
Je fais tout ce que je peux, mais il n'y a toujours pas d'accord, a admis David Cameron en arrivant en fin de matinée. Il reste beaucoup de travail, estime de son côté François Hollande. Alors, le sommet devait se terminer autour d'un petit déjeuner anglais ce matin à 10h, mais tout a pris du retard. Officiellement, les dirigeants ont maintenant rendez-vous dans 30 minutes pour un déjeuner et une dernière session commune. Mais pour le moment, ils sont encore dans les discussions en tête à tête. Ce matin, deux d'entre eux avaient encore des objections, le Premier ministre tchèque et François Hollande. Au nom des pays de l'Est, Prague tique sur l'idée d'exclure de certaines aides sociales les Européens qui s'installent au Royaume-Uni. Et François Hollande, lui, bataille sur le front de la régulation bancaire. Ça semble compliqué, mais grosso modo, l'objectif, c'est d'éviter qu'avec toutes les exceptions qu'ils vont obtenir, les Britanniques et leur puissante City de Londres ne fassent une concurrence déloyale aux banques de la zone euro. Voilà, tout ça est en cours. Ce matin, à l'aube, un dirigeant était pris de doute. Je ne peux pas vous assurer qu'on va terminer aujourd'hui. À cette heure-ci, effectivement, toujours pas de fumée blanche en vue.
Isabelle Horry en direct pour Europe 1 de Bruxelles. Hier soir, c'est donc la question des migrants qui a monopolisé les débats. Plus de 6 heures de discussion. C'est l'Autriche qui a créé des tensions en annonçant la mise en place de quotas dès aujourd'hui à ses frontières, pas plus de 80 migrants par jour. Un sommet spécial aura lieu début mars. Les 28 ont aussi invité à cette occasion la Turquie. Après Bruxelles, François Hollande sera de retour à Paris pour s'envoler demain à l'autre bout du monde. Voyage de 7 jours qui lui fera faire plusieurs escales. Polynésie et Amérique latine, 46 000 km de trajet au total. Le chef de l'État qui a fait passer des consignes sur la refonte du Code du travail qui arrivera en avril devant le Parlement. Europe 1 vous le révélait ce matin, il ne veut pas d'un passage en force, il n'y aura pas de 49-3. Ce dispositif qui permet de faire adopter un texte sans vote à l'Assemblée. François Hollande attend du gouvernement qu'il parvienne à dégager un consensus. Il devrait donc y avoir quelques évolutions sur le projet de loi dévoilé hier. Ce 49-3, c'est Manuel Valls qui en avait émis l'idée, le Premier ministre étant en visite en Afrique. Avant le Burkina Faso, il est au Mali, Bamako, hier, Gao, aujourd'hui au nord du pays, dans la base des forces françaises engagés dans l'opération Barkhane, la lutte antiterroriste. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1, il vient juste d'arriver.
Oui, le Premier ministre s'est immédiatement livré une revue d'effectifs, courte cérémonie, le pas est solennel dans le sable de cette base qui est au cœur du dispositif Barkhane, une base ultra renforcée protégée par plusieurs enceintes, des murs concentriques faits de sacs de terre, à deux pas du centre de Gao, aux portes du désert, un aéroport aussi où le risque d'attaque est permanent. La base a subi des tirs de roquettes en janvier notamment. C'est de là que partent toutes les missions chargées de lutter contre les terroristes, des opérations coup de poing vers les villes de Kidal ou de Tombouctou où les djihadistes sont encore très actifs. Des patrouille aussi chargée de repérer les éventuels campements, les caches d'armes. Ils en trouvent quotidiennement en ce moment car ils ont récemment récupéré le carnet d'un chef djihadiste qui liste ses caches, des armes, des lance-roquettes, des fusils enterrés dans le sable du désert et même ces dernières semaines, un pick-up caché à plusieurs mètres sous terre.
Jean-Sébastien Soldeini, envoyé spécial d'Europe 1 à Gao, dans le nord du Mali. La conseillère agricole tuée hier près de Rodez dans l'Aveyron, une information judiciaire est ouverte pour assassinat. Le suspect est déféré au parquet en vue d'une mise en examen. C'est un agriculteur de 47 ans. Il travaillait dans l'exploitation laitière de son frère. L'autopsie réalisée sur la victime révèle que sa mort a été causée par une combinaison de strangulation et de noyade. Le suspect l'aurait traîné sur plusieurs mètres avant de la pousser dans une mare d'eau glacée. Il était dans un délire interprétatif paranoïaque, explique le procureur au vu de son expertise psychiatrique.
Sur les routes, dans les trains et en avion, c'est le week-end le plus chargé des vacances d'hiver.
Oui, toutes les académies sont en congé. C'est sur les routes des Alpes qu'on attend beaucoup de monde. Sandrine Priou, les difficultés vont démarrer d'ailleurs dès cet après-midi.
Oui, dès 15-16 heures, au départ des grandes villes et en direction des pistes. Demain, c'est pire. Ce sera noir toute la journée en Rhône-Alpes et rouge dans le sens des retours pour Rhône-Alpes et Bourgogne. En tout, 120 000 voitures transiteront pour ce plus gros chassé-croisé de l'hiver. Patience donc si vous pouvez partir après 20 heures ce soir ou après midi demain, c'est mieux. Et puis plus de prudence en direction des stations de sport d'hiver. Vous pourriez rouler sous de légères averses de neige demain après-midi.
Alors vers les Alpes, Sandrine, ce qui complique la situation, c'est une grève des TER.
Si vous vouliez prendre un TER en Rhône-Alpes, la SNCF conseille clairement de reporter dans la mesure du possible, car ce sont bien les vallées alpines qui sont touchées par ce mouvement de grève depuis hier soir. Au départ de Lyon vers Chambéry, Ambérieu, Annecy, Genève, seulement 70% du trafic assuré, à peine 30% dans la Loire et l'Ain notamment. Au départ de Bourg-en-Bresse, des galères à prévoir donc, mais notons qu'elles ne concernent bien que les TER pour monter aux pistes. Aucun TGV n'est affecté.
Et puis pour être complet, beaucoup de vacanciers également attendus dans les aéroports.
Oui, là aussi, soyez prévoyants. Si aucun préavis de grève n'a été déposé pour ces vacances depuis ce matin, Aéroport de Paris conseille à ses voyageurs de venir plus tôt pour s'enregistrer en raison d'un renforcement des contrôles sur l'ensemble des lignes.
Merci Sandrine Priolet. On vous accompagne sur la route de vos vacances dès 16h cet après-midi et tout au long du week-end. Europe 1 vous proposera un radio-guidage. Les annonces de cette semaine sur les baisses de charges n'ont pas calmé l'ensemble des agriculteurs. De nouvelles opérations ont été menées ce matin dans les Hautes-Pyrénées. Du fumier déposé à Lourdes devant un hard discount Lidl. Il l'accuse de tuer les producteurs locaux en faisant des promotions permanentes et en apportant des produits de l'étranger. Climat toujours aussi tendu à Corté, en Corse. L'université est de nouveau fermée par les syndicats étudiants. Il dénonce la condamnation à 5 mois de prison ferme d'un jeune de 20 ans pour des violences lors de la manifestation de mardi dernier.
C'est l'une des batailles les plus terribles de l'histoire moderne. On commémore ce week-end le centenaire de Verdun.
Oui, l'offensive avait démarré le 21 février 1916. Des combats qui ont tourné à la boucherie. 400 000 soldats français et allemands y sont morts. Le mémorial de Verdun rouvre ce dimanche après 2 ans de travaux et de reconstruction totale. Le champ de bataille est aujourd'hui encore préservé. Il est recouvert d'une forêt de 10 000 hectares où le souvenir et les traces de la Grande Guerre sont omniprésents. L'or d'Autriche s'y est rendu pour Europe 1.
Le pied s'enfonce dans la terre humide. On trouve encore ici des éclats d'obus et des armes qui ne sont plus que des bouts de ferraille. Dans la forêt, les tracteurs et les pelleteuses sont interdits, raconte Joël Day, forestier depuis 35 ans. On ne circule qu'à pied, par respect pour les 80 000 soldats encore ensevelis sous le champ de bataille.
Récemment, ils ont trouvé 8 corps. On trouve des peignes, des lunettes, des pipes, des choses comme ça. C'est assez émouvant d'ailleurs. Quand on connaît la quantité d'obus qui sont tombés ici au mètre carré, on conçoit facilement que les gens ont pu être ensevelis par 1 ou 2 obus. On ne pourra jamais retrouver tous les corps.
Au bout d'un chemin, Joël Day montre du doigt des arbres particuliers. Ce sont les arbres livrés par l'Allemagne dans les années 30 au titre des réparations de guerre.
Ce sont des pins noirs d'Autriche. Ils ont été donnés par l'Allemagne au titre des dommages de guerre à la France et ils ont servi à reconstituer, bien sûr, ce champ de bataille et le transformer en forêt.
100 ans après la bataille, les forestiers viennent de découvrir sous des broussailles un bout de tranchée où les soldats se restauraient.
Il arrive des moments où le temps fait aussi son œuvre
et fait sortir de terre des choses qu'on ne connaissait pas, même si depuis des années on passe à côté.
Avec le temps, le paysage labouré par les milliers d'obus ne se verra plus. Ne resteront que les tombes, quelques morceaux de ferraille et les crapauds sonneurs avec leur ventre jaune, une espèce protégée. Verdun, Lord d'Autriche, Europe 1.
Et cette bataille de Verdun, Franck Ferrand y consacrera son émission cet après-midi au cœur de l'histoire sur Europe 1 de 14h à 15h. Le foot, le début ce soir de la 27e journée de Ligue 1. À 20h30, Bordeaux accueille Nice, 3e du classement. Hier en Ligue Europa, c'était les 16e de finale aller. Bilan contrasté pour les Français. Marseille s'est incliné au Vélodrome 1-0 face aux Espagnols de l'Athletic Bilbao. Saint-Etienne s'est imposé à domicile 3-2 face aux Suisses du FC Bâle. Match retour jeudi prochain.
C'était le journal de Christophe Carré. Merci Christophe. Il y a un truc qui vous chagrine, Maxime. Expliquez-nous.
Vous voulez que je vous explique ?
Allez-y.
Je viens de comprendre.
Allez-y.
Que François Hollande, qui part dans une tournée en Polynésie, notamment en Amérique du Sud...
Il va partir demain matin,
je crois. Il va partir demain. Ouais. Manuel Valls est en Afrique. Et je viens de comprendre qu'il n'y aurait donc pendant quelques heures ni Premier ministre, ni Président de la République en France.
Oh, le pauvre chou. On le sera tout seul. Personne ne peut le gouverner.
Moi, je trouve ça un peu étrange, voilà.
Eh oui. Mais vous avez raison, c'est étrange parce qu'en général, ils évitent, mais ça arrive de temps en temps.
Ben voilà.
Mais comme personne ne va nous attaquer là pendant ce week-end, soyez sereins, Maxime. Allez, on va prendre... un peu de temps, voilà, quelques secondes, et puis 39-21, notre dialogue sur l'actualité, sur l'antenne d'Europe 1, tout de suite.
Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39-21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel.
Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Et dans un instant avec vous au 39-21, les grincheux. Les grincheux, appelez-nous les grincheux. C'est comme ça que le ministre Jean-Marie Le Guen appelle ceux qui s'opposent à la réforme du Code du Travail telle qu'elle a été présentée hier. Si vous en êtes un de grincheux, appelez-nous au 39-21. Mais d'abord Jean-Michel, le pape.
Le pape qui est rentré du Mexique où il a fait un voyage officiel. Et en rentrant dans l'avion, il a prononcé beaucoup de phrases qui ont fait débat ici et là. Et Caroline Pigozzi, vous étiez avec le pape dans l'avion qui le ramenait de Mexico à Rome. C'était hier soir. Le voyage s'est bien passé, vous nous l'avez dit.
J'ai même eu l'honneur de pouvoir poser une question, même deux.
Qu'est-ce que vous avez posé comme question au pape ?
Je lui ai demandé ce qu'il avait demandé à la Vierge de la Guadeloupe. Oui. Et je lui ai demandé s'il rêvait la nuit en italien ou en espagnol.
Et alors, qu'est-ce qu'il a demandé à la Vierge ? Et donc,
la Vierge, tout. Il lui demande tout à chaque fois. Si, s'il y a une liste qui est tellement longue que je ne vais pas vous la donner. Quant à il rêve, il a hésité à me répondre. Il m'a dit en espéranto. En réalité, je crois qu'il rêve en espagnol.
En espagnol, oui,
oui bien sûr, mais
Natal,
il voulait pas le dire.
Évidemment.
Il a dit que surtout, il rêvait, pas dans une langue, mais qu'il avait des concepts dans ses rêves.
D'accord. Donc, il est diplomate, alors, dans ses réponses. Il fait attention.
C'était peut-être un peu indiscret.
Ah, peut-être, oui. Mais pourquoi vous l'avez posé cette question, d'ailleurs, du rêve? Qu'est-ce qui vous l'a suggéré?
Moi? Oui. Parce que mon instinct, à force de voyager avec les papes, il faut poser les bonnes questions.
Bon, donc le pape a eu beaucoup de propos, de commentaires sur l'actualité. Et celui qui a retenu notre attention, c'est cet appel à la générosité envers les migrants. Le pape a dit, on ne construit pas des murs, mais on construit des ponts. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry, vous êtes à Mancieul, en Meurthe-et-Moselle. Est-ce que vous nous entendez? Ah bon, mais donc on
là,
me dit
on a un
que...
couac.
Oui, il y a un petit couac, comme vous dites, ça arrive quelquefois.
Hein. Oh, ça arrive aussi dans l'avion du pape, rassurez-vous.
Voilà. Alors, en vous entendant tout à l'heure, Caroline Pigozzi, le monseigneur Di Falco, pardon, a souhaité intervenir dans le débat. Alors, j'aurais voulu que d'abord nous ayons un auditeur d'Europe 1, mais monseigneur Di Falco, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, je suis là, bonjour à Caroline.
Vous êtes évêque de Gap et d'Embrun.
Oui.
Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans les propos de Caroline Pigozzi?
J'ai souhaité, non mais c'est pas les propos de Caroline Pigozzi, c'est ce que j'entends depuis hier dans les médias, où on dit que le pape a mis en cause la foi de Trump. Le pape n'a pas mis en cause la foi de Trump, il a mis en cause les propos de Trump. Et c'est une nuance, parce que chez nous, on distingue ce qu'on appelle le fort interne et le fort externe. Personne ne peut juger le fort interne, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur et dans la tête de quelqu'un. En revanche, on peut avoir des réactions, et c'est le cas de ce qu'a fait le pape, par rapport aux attitudes, aux comportements ou aux propos d'une personne.
Oui,
mais le pape n'a pas mis en cause la foi, il a mis en cause les propos non-chrétiens.
Je vais citer précisément le pape, je ne sais pas si le débat est extrêmement important, mais quand même pour être précis, puisqu'en tout cas ces propos vous ont conduit à nous appeler, Mgr Di Falco, Donald Trump annonce durant sa campagne primaire aux États-Unis que s'il est élu, il construira un mur qui séparera le Mexique des États-Unis. Et le pape a dit ceci hier, qui construit des murs et pas des ponts n'est pas chrétien.
Donald Trump n'est pas chrétien.
Il dit le projet de Donald Trump n'est pas chrétien. Mais enfin non, je crois qu'il dit Donald Trump n'est pas chrétien.
Oui, mais c'est un raccourci. Les propos de Trump ne sont pas chrétiens. Mais personne, pas plus le pape que quiconque, ne peut savoir ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Personne ne peut dire il a la foi, il ne l'a pas.
C'est ce que lui a répondu Donald Trump, oui, d'ailleurs.
Mais je peux interpréter.
Voilà, c'est pour ça que je réagis, parce que quand Trump dit c'est honteux de juger la foi de chrétiens, mais le pape n'a pas jugé la foi de Trump, il juge ses propos, il juge son comportement, il juge son discours. C'est pas la même chose.
D'accord, Caroline.
Oui, écoutez, vous savez, c'est comme quand on retire, quand on enlève d'une phrase, d'un contexte, d'un homme politique, il faut voir les conditions dans lesquelles ça se passait. On avait assisté à cette messe absolument incroyable avec, finalement, beaucoup de migrants. C'était bouleversant, cette
messe. À la frontière entre Mexique et les États-Unis.
À la frontière, c'était incroyable avec les barbelés. Je veux dire, les correspondants italiens qui voient les papes qui les suivent depuis un temps fou. Il y en avait deux qui avaient des lunettes parce qu'ils pleuraient. Ils voulaient pas. C'était une chose, mais bouleversante. Donc, le pape est monté dans l'avion. Quelqu'un lui a posé cette question. Il faut voir qu'en plus, le pape, il voit avec des très vilaines lunettes Monsieur Trump, qui considère comme un capitaliste très très riche, qui a divorcé, qui a montré ses femmes sous toutes ses... Enfin, vous voyez, c'est pas du tout le genre de personnage qui lui plaît. Donc, il a dit ça, mais il faut pas le retirer du contexte. Et il est vrai que après cette messe, un souverain pontife, donc qui est là pour construire des ponts, quand il entend ça, il bondit. Vous voyez, il faut pas retirer les choses du contexte.
Qu'est-ce qui vous conduit à réagir, Mgr Di Falco? Parce que vous trouvez illégitime que l'on prête...
Mais non, ne mélangez pas tout. Je répète.
C'est à moi que vous dites ça?
Non, pas à vous.
C'est à Caroline?
Non, je parle pas à Caroline.
Allez-y. On mélange pas tout, allez-y.
Ne mélangeons pas tout. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut distinguer le fort interne et le fort externe. Le pape, et il a raison, met en cause ses propos insupportables de Trump. Mais il ne juge pas de sa foi. Personne ne peut juger de la foi de quelqu'un, pas plus le pape que quiconque. Okay. C'est pour ça que quand j'entends partout, et d'ailleurs la réaction de Trump lui-même, quand il dit que le pape a jugé sa foi, le pape n'a pas jugé sa foi, personne ne peut le faire. Okay. En revanche, on peut juger des discours, des comportements et des propos, et il a bien raison de dénoncer les propos de Trump.
D'accord, donc on a bien compris votre propos, Mgr Di Falco. Caroline, le mot de la fin?
C'est deux hommes politiques extraordinaires, et le pape et M. Trump. Et M. Trump, il va se trouver avec 23% de catholiques qui vont voter ou pas voter aux États-Unis, il faut quand même le rappeler, donc il ne pouvait pas laisser passer, à sa manière.
Il a bien eu raison de ne pas laisser passer.
Voilà, donc vous êtes... Voilà. À peu près d'accord, et merci Mgr Di Falco.
Je ne suis pas du tout en désaccord avec Caroline, je suis d'accord avec tous les discours que j'entends ici ou là dans des tas de médias.
D'accord.
Voilà, c'est tout.
Et vous avez souhaité rectifier, je vous remercie d'avoir appelé Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée.
Au revoir.
Bon, Thierry, alors on vous avait perdu, bonjour Thierry.
Oui, bonjour à vous. Excusez-moi, ça a coupé, je ne sais pourquoi.
Mais on m'a dit que vous aviez appuyé sur le bouton raccroché ou quelque chose comme ça. Voilà.
J'ai tout à fait involontairement, désolé.
Ah, mais j'imagine bien que c'était involontaire.
C'est l'émotion papale.
Pensez bien.
Voilà, ça doit être ça, oui.
Donc vous êtes à Manciel, c'est ça, en Meurthe-et-Moselle?
Oui, c'est ça, oui.
Alors, qu'est-ce que vous pensez des propos du pape qui dit que, par rapport aux migrants, il faut faire des ponts et pas des murs?
Moi, j'étais quand même assez choqué de lire ça, même si j'ai pas vu tout le contexte dans lequel ça a été dit.
Oui.
Moi, j'ai juste une question à poser au pape. J'aurais voulu savoir combien de migrants a accueilli le Vatican cette année, quoi. Voilà. Mmh. C'est la question que je me pose à la base.
Mmh. Parce qu'il vous semble que c'est pas très réaliste ce qu'il dit, le pape, c'est ça?
Non, pas du tout. Mais pas du tout. C'est complètement impossible, quoi. Vous imaginez chaque famille prendre un migrant, mais on va où, là? Je pense que, vu la conjoncture actuelle du pays, chaque famille a déjà bien du mal à faire avec ses propres enfants, sa propre famille. Et là, le pape qui veut nous imposer, entre guillemets, un migrant, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible, quoi.
Ça vous a choqué.
Ah, complètement. Moi, je dis déjà que la première chose, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Hein. Prenons soin d'abord de nos concitoyens, puis après, on peut voir un peu ce qui se passe autour.
Mais voyez, Thierry, confronté à la douleur, à la misère d'hommes, de femmes et d'enfants qui arrivent aux frontières de l'Europe. Non, je vais juste aller au bout. Parce que c'est un problème, cette migration. Bien sûr qu'accueillir des gens, c'est extrêmement difficile et qu'on a beaucoup de problèmes à régler nous-mêmes et que je peux comprendre ce que vous dites. En même temps, on a vu notre voisin allemand, ça ne durera pas peut-être, mais il l'a fait, ouvrir largement les bras à ses femmes, ses enfants et ses hommes qui sont dans une souffrance et un dénuement terrible.
Mais ça, moi, je veux bien l'entendre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je veux bien l'entendre. Mais faut bien se dire aussi, c'est que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Quand on voit dans les rues que cet hiver, il y a des SDF bien chez nous qui sont morts de froid, qui sont morts de faim, et que le gouvernement n'a rien fait pour ces gens-là. Et à côté de ça, on vient nous emmerder, entre guillemets, avec les migrants. Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. C'est plus possible, quoi. D'accord. Vous imaginez à Calais ce qui se passe, là. À Calais, c'est plus possible. Les gens, ils peuvent plus vivre tranquilles, quoi. D'accord. Les gens ne peuvent plus vivre tranquilles. Ça, c'est juste pas possible.
Vous avez raison, Thierry, mais en même temps, on essaie d'articuler des contradictions qui sont assez fortes. Ces gens qui fuient la guerre, ces femmes avec leurs enfants, des hommes qui fuient la guerre, et qu'est-ce qu'on leur dit?
Non, mais ça se comprend bien.
Mais c'est des contradictions difficiles à gérer.
Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais quand vous voyez que la Suède sont en train de refouler les migrants par dizaines de milliers, qu'ils ont accueilli quand même 160 000 l'année dernière, et puis que maintenant c'est plus possible, c'est qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. On est bien d'accord. Moi, je vous invite à faire un sondage sur votre computer pour savoir combien de bons chrétiens, entre guillemets, seraient prêts à accueillir un migrant. À mon avis, vous seriez surpris.
Vous voulez dire, il y a quand même des gens qui mènent des actions de solidarité, ça existe. Hein.
Non, mais d'accord.
Faut pas être chrétien forcément d'ailleurs, c'est les gens qui le veulent.
Non, mais d'accord avec vous, mais la solidarité, elle commence où, elle se termine où?
C'est une bonne question. Est-ce qu'on écoute Caroline Pigozzi? Restez avec nous, Thierry. Caroline.
Je crois que le pape veut créer un climat. C'est ça, surtout. Il veut culpabiliser. Il n'est pas là pour juger chacun, dire vous devez pas, telle municipalité doit le faire. Il veut absolument, c'est alerter le monde. Il est une sorte d'ambassadeur de la paix. Il est très écouté en ce moment parce que c'est une pop star, finalement, il faut le dire. Et il a une tribune. Et avec cette tribune, il s'en sert et il dit ça. Après ça, chacun le prend à la mesure de son cœur.
Bien sûr, mais il se coupe de beaucoup de chrétiens, comme Thierry, par exemple.
Sur le moment, je pense qu'après ça, je pense que c'est une première réaction épidermique. J'espère pour lui qu'après ça, les gens reviennent. Mais il peut pas, à la place où il est. En plus, il faut voir qu'il est lui-même petit-fils de migrants, enfin des migrants qui avaient un peu d'argent, d'ailleurs comme quelques-uns des gens qui passent aussi. Il est, je le répète, d'Amérique latine. Il a une autre vision du monde. Donc, c'est pas du tout un Européen confortable chez lui. Et c'était déjà son combat quand il était archevêque de Buenos Aires. Quand il était évêque, ça a été, quand je suis allé en Argentine pour faire une enquête sur lui très peu de temps après son élection, les prêtres Padre Tio, Padre Pepe, tous les gens qui travaillaient avec lui m'ont dit le combat de sa vie ça va être les migrants, vous y trompez pas. Et je suis rentré au journal, on m'a regardé, j'ai dit non, vous allez voir, moi je vous répète ce qu'on m'a dit là-bas. Et donc c'est vraiment ça,
il a une sensibilité particulière
depuis toujours.
Qui est lié à son histoire.
Absolument, et qui est lié à la situation de l'Argentine où il y a quand même un pays où les gens ont beaucoup migré, beaucoup entre bougé. Les deux guerres, en fait, depuis 1900 même.
Bon, voilà Thierry.
Ben voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas.
Mais écoutez, on était heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1 et je vous souhaite une bonne journée à Montciel.
Merci à vous, au revoir, bonne journée.
Au revoir Thierry.
Au revoir.
Bonjour Patrick.
Oui, bonjour Monsieur Apathy.
Vous êtes à Marseille dans les Bouches-du-Rhône.
Eh oui.
Catholique?
Au soleil.
Ah, au soleil.
Je voulais en profiter, oui. Monsieur Apathy, pour que c'est l'occasion de saluer Madame Pigozzi.
Bah, écoutez, elle est là, elle vous entend, et votre salut doit lui faire plaisir.
Je me permets très gentiment, mais très simplement, de mettre en évidence une chose qu'on oublie un peu trop souvent. C'est pas évident d'être journaliste, et notamment de s'occuper des journalistes, c'est pas facile. Et en plus, de s'occuper de tout ce qui est de la religion n'est pas facile non plus, c'est comme spécialité. Donc je voulais dire que cette personne me semble être un petit peu, quelque part, dans une forme de juste équilibre, si vous voulez, entre sa foi, que je suppose, et d'autre part la rigueur de la profession de journaliste, qui fait que du coup elle devient très crédible et très efficace.
Bon, bah écoutez, je pense que on a bien fait de vous accueillir sur l'antenne d'Europe.
Vous savez que le premier des propos du pape, c'est l'humilité.
Bon, alors sur le pape, et ses propos, allez-y.
Oui, justement, je vais y arriver. Oui. Et pour ce qui est du pape François, si je peux me permettre, mais en toute simplicité, et c'est réel ce que je dis, en fait, je pense que ce pape est une chance pour le monde catholique et pour le monde tout court. Pourquoi? Parce que c'est un homme, j'ai l'impression, de sagesse. C'est un homme d'audace, de vérité. Il a su adroitement, si vous voulez, tenir en respect toute la curie, élégamment. Mmh. Et il a su fédérer l'opinion internationale, élargie, par sa crédibilité naturelle, puis surtout par son passé, un passé hors du commun.
Et ses propos sur les migrants. Et ses propos
de fermeté,
Ces propos sur les migrants, vous en pensez quoi?
Alors, sur les migrants, si vous voulez, je pense que, si vous voulez, il y a un auditeur qui est charmant, là, tout à l'heure. Mais le pape n'impose rien. C'est ne pas comprendre ce que veut dire le pape. Le pape, si vous voulez, François suggère, il promeut, il incite. C'est son rôle. En plus, il le fait passablement bien. Donc, si vous voulez...
Mais moi, ça l'engage aussi, il attend d'être suivi, le pape. Il ne dit pas ça pour se faire plaisir. Hein.
Mais il ne le dit pas dans le vent, dans le vide, pardon. Il
non,
le dit pas
justement.
Dans le vide. Par contre, il le suggère très intelligemment. Et l'opération Mexique-US est tout à fait le lieu. Pour revenir à ce qu'a dit Trump, c'est évident. Enfin, bon, Trump, personne, tout le monde le sait. Enfin, on croit le savoir, en fait. Si vous voulez, Trump, c'est finalement un grotesque républicain, un peu hystérisé et vide de sens. Donc les propos de Trump, bon, c'est fidèlement du Trump. Bon. Mm. Par contre, les propos du pape François sont effectivement très clairs, très, comment dire, frais, parce que c'est la seule voix claire forte face au silence coupable et complaisant des politiques de la planète. Monseigneur Di Falco a raison de resituer les choses. Il n'a pas du tout dit...
Les politiques de la planète, vous savez, il y a des gens qui... je sais pas, Angela Merkel, par exemple, a fait des choses. Hein. Quand elle est confrontée à la misère des migrants, même contre son opinion publique, mais contre les dirigeants de son parti... Oui, d'accord. Ouais. Ouais. Mais quand vous disiez que personne ne foutait rien...
Ne met en évidence l'aberration des propos de Trump. Qui sont sexistes, machistes, enfin vous connaissez tout ça mieux que moi, monsieur Paty.
Évidemment. Donc, on a compris que pour vous, le pape apportait quelque chose dans le débat. Caroline, évidemment, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je pense que le pape, il dit beaucoup de choses et puis il en reste toujours quelque chose. Vous savez, vous dites à 100% des choses et puis il en reste. Mais il faut voir que, par exemple, quand on était à cette messe, les gens de la sécurité du pape étaient extrêmement inquiets parce que, la police mexicaine, elle est très corrompue. Et je veux dire, c'était une messe assez dangereuse aussi. Oui, hein. C'était pas... Donc, si vous voulez, le pape, il s'implique, il connaît. Et pourquoi ces paroles porte aussi, c'est parce qu'il parle là d'un sujet qu'il connaît parfaitement. Mmh. Vous voyez, c'est...
C'est un sujet qui résonne aussi dans notre actualité. Nous sommes confrontés quand même à des choses terribles.
Mais il a été le premier à en parler il y a 3 ans. Il a été élu il y a 3 ans quand il en parlait.
Des millions de gens frappent à nos portes. Et nous, aujourd'hui, peut-être que nous avons raison, peut-être que nous avons tort, mais nous avons plutôt envie de fermer les portes que les ouvrir. Donc... les problèmes posés par cette situation sont tout de même nombreux.
Et il se dit que sur le nombre de pays qui sont, par exemple, représentés au Vatican, il y a 180 ambassadeurs près le Saint-Siège. Leur métier, c'est de relayer sur le nombre de pays. Même s'il n'y en a que 10% qui entendent, ça fait quand même 18 pays. C'est toujours ça de prix. Vous voyez, c'est ça, sa mentalité.
Bien sûr. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir appelés depuis Marseille. Et je vous souhaite une très bonne journée au soleil de Marseille. Elle est déjà partie... faire trempette peut-être, voilà. Donc,
on l'a pas convaincu.
Au revoir Patrick, si mais vous étiez d'accord. Et en tout cas, merci beaucoup Caroline, nous étions très heureux de vous accueillir dans Europe Midi pour commenter les propos du pape avec lequel vous avez effectué ce voyage jusqu'au Mexique.
Merci à vous, je suis pas son avocate, hein, je le répète, je suis d'abord journaliste.
Vous êtes journaliste, voilà. Nous l'avions compris et c'est ainsi que nous avions reçu.
Pour apporter vos témoignages sur l'actualité,
appelez Europe 1 au 39-21,
50 centimes la minute plus coût de l'appel.
Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Vous sentez-vous grincheux? On en parle au 39-21. Les grincheux, c'est comme ça que le ministre Jean-Marie Le Guen appelle ceux qui s'opposent à la réforme du Code du Travail, ceux à gauche qui s'opposent.
Gauche, c'est ça,
oui, ceux à gauche qui s'opposent à cette réforme du Code du Travail.
Si vous êtes à droite et si vous vous opposez, vous n'êtes pas grincheux.
Non,
pour
ça,
Jean-Marie
c'est normal.
Le Guen. C'est normal. Vous êtes de droite.
Voilà.
C'est normal. Mais si vous êtes de gauche et si vous opposez, là
vous êtes
grincheux. Bonjour Corinne.
Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel.
Vous êtes à Strasbourg?
Oui, tout à fait.
Vous êtes grincheuse?
Je suis grincheuse et pourtant je suis pas de gauche.
Ah, mais si vous n'êtes pas de gauche, vous n'êtes pas grincheuse.
Ah, si, malgré tout.
Ah, vous êtes quand même grincheuse,
parce
d'accord.
Que, la gauche aujourd'hui a clairement une politique de droite. Et notamment pour ce qui concerne le travail. Et moi, j'ai souhaité intervenir parce que voilà, je vais avoir 50 ans. J'ai une activité professionnelle. Je suis
cadre en entreprise. C'est pas grave d'avoir 50 ans. Hein.
Non, mais
de
voilà.
De vous à moi. Hein. Maxime pense que c'est grave, mais c'est pas grave.
Pas du tout.
Pas du tout.
Quand on a du boulot, tout va bien. Quand on a 50 ans, on n'a plus de boulot, ça devient plus compliqué.
Mais attendez, Corinne, excusez-moi, je vous coupe. Vous n'êtes pas de gauche, donc vous êtes de droite.
Plus.
Ah, vous n'êtes plus de droite? Ah, mince
plus.
Alors.
Je deviens, là en ce moment, je deviens apolitique parce que finalement, que ce soit la gauche ou la droite...
Ah oui, vous êtes super grincheuse en fait.
Ouais, on est. Enfin, moi, je suis très déçue de tout le monde. J'ai voté à gauche quand j'étais plus jeune, parce que j'y croyais. Je croyais à l'aspect social. J'ai ensuite voté à droite parce que bon, je voyais que au niveau de la gauche, ça allait pas bien. J'ai mis beaucoup d'espoir dans la droite et j'ai été déçue aussi. Et puis là, maintenant, je continue d'aller voter, mais je vote blanc. Et là, je suis particulièrement grincheuse. Ouais.
Bon, si vous votez blanc, remarquez, vous risquez pas d'être déçue là.
Si vous votez blanc, vous attendez.
Voilà, c'est ça. Mais vous attendez pas grand-chose, quoi, si vous votez blanc.
Non, j'attends plus rien de personne. Bon. Mais moi, je suis atterrée quand je vois cette politique de gauche qui est pas du tout en faveur des salariés. C'est ce que j'expliquais à la jeune femme qui a pris mon appel. Aujourd'hui, je paye 800 euros par mois d'impôts, 600 euros de loyer. Si demain j'ai plus de boulot et que je suis au SMIC, mon salaire ne couvrira même pas juste ces deux postes-là. Et il y a de quoi être grincheux, parce qu'il y a de quoi être très, très inquiet pour l'avenir.
D'accord. Oui, mais j'entends votre état d'esprit. Et donc, Corinne, je ne sais pas trop quoi vous dire, mais j'entends votre état d'esprit. vous n'espériez pas que, de toute façon, je résoudrais... Voilà, c'est ça. D'accord.
Voilà.
Bon, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à Strasbourg.
Merci, vous également.
Merci beaucoup. Au revoir, Corinne.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Alors, on reste en Alsace. Bonjour, Quentin.
Bonjour, Jean-Michel.
Vous êtes à Colmar.
Oui, c'est ça.
Grincheux.
Oui, grincheux.
Ah, bon. Qu'est-ce qui se passe ?
Ça ne me dérange pas trop de prendre... De prendre cette position de grincheux. Parce que moi, je suis contre le fait qu'on puisse allonger la journée de travail jusqu'à 12 heures. Je ne sais pas si ces messieurs ils se rendent compte de ce que ça représente, une journée de 12 heures de travail. Mmh. Si on commence le matin à 8 heures, on finit le soir, il est 8 heures. Mmh. Donc, je ne sais pas, eux, qu'est-ce que... Je ne sais pas. Moi, après, ça ne me dérange pas du tout d'être grincheux. Au contraire. Moi, je suis contre la réforme. Après, du moment que ça va dans le sens de la France et que ça peut faire évoluer les choses, ouais, j'aurais pu être d'accord. Mais là, c'est pas du tout dans le sens dans le bon sens, quoi.
Pourquoi là, on va c'est pas dans le bon sens, c'est-à-dire parce que c'est-à-dire que la philosophie du projet de loi que je ne défends pas et que j'essaie juste d'expliquer, c'est s'il y a une commande exceptionnelle, s'il y a un accord d'entreprise. Les gens travailleront plus. Bon, ils seront payés plus aussi. Hein, donc, voilà. Ça ne vous paraît pas bien, ça.
Plus à 10%, d'après ce que j'ai pu...
Minimum 10%. La négociation peut faire plus. Le plancher, c'est 10%.
Oui, voilà, 10%, mais des semaines à 60 heures.
Et il peut y avoir effectivement... Non, on ne passe pas des semaines à 60 heures, c'est 46 ou 48 heures. Le maximum, c'est 48 heures, et là, je crois que dans le projet de loi, c'est 46 heures.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Parce que c'était marqué des journées de 12 heures et pouvant aller jusqu'à des semaines de 60 heures.
Ah oui, peut-être que le journal, il y avait une petite coquille alors.
Ah. Et du coup, ouais, ça fait que moi, je ne suis pas pour. Après, d'accord. Ça favorise le patronat. Certes, il faut donner de la souplesse au patron pour la compétitivité, etc., etc. Mais s'ils veulent vraiment créer de l'embauche, moi, je ne sais pas combien exactement je coûte à mon employé, mais je crois que c'est à peu près une fois mon salaire en plus. Hein. Que lui il dépense. C'est-à-dire, il me donne mon salaire et derrière.
50%, hein, oui, 50% de charge sur le salaire. Vous, on doit vous retenir 20% de charge sur le brut.
Non, et 50%. C'est ce qu'on retient à moi, mais derrière, le patron, il paye.
50%, je pense à peu près 50% de charge.
Ouais, voilà. Et bien, si on réduisait ça et qu'on leur faisait payer de moins de taxes, des entreprises et des machins, je pense qu'ils seraient moins pris à la gorge pour les petites entreprises et les machins comme ça. Ils seraient moins pris à la gorge et ils pourraient embaucher. Et à ce moment-là, on n'aurait pas besoin de rallonger les journées de travail. Il y aurait du travail suffisamment pour les gens qui en cherchent.
Allez, vous êtes mûr pour la campagne présidentielle, Quentin. Vous avez des bonnes idées. Allez. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé le 3921. Et d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1.
Mais c'est moi qui vous remercie, Jean-Michel.
Et je vous souhaite une bonne journée à Colmar.
Merci, vous aussi, bonne journée.
Voilà, bon, les grincheux, ils n'étaient pas tellement grincheux. Enfin, ils n'étaient pas très contents non plus. Mais enfin, voilà. C'est un peu la fin de la semaine, il faut qu'on se repose tous. Et on se retrouve lundi, 13h10, pour évoquer l'actualité sur l'antenne d'Europe 1 par l'intermédiaire du 3921.
Mais avant cela, dans deux minutes, les découvertes d'Europe Midi avec au menu aujourd'hui gastronomie, télévision, littérature et Mathieu Noël. Il arrive, ils arrivent, elle arrive, à tout de suite.
Europe 1. 12h, 14h.
Europe Midi.
Et à 13h.
13h41 sur Europe 1. Il est temps d'accueillir toute la bande des découvertes d'Europe Midi autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek.
Alors, je vous dis à tout le monde, Maxime est un peu inquiet parce que papa et maman sont pas là ce week-end. Valls et Hollande sont partis, alors ça le tracasse. Ah, soyez gentil avec lui. Hein. Ah vous, Maxime, on est gentil avec
vous. Je trouve ça bizarre.
Moi aussi, je trouve ça bizarre.
J'explique pour Eva Rock qui est à côté de moi et qui se demande de quoi on parle. Oui. Pendant l'espace de quelques heures demain, il n'y aura en France ni président de la République ni premier ministre. Je trouve ça étrange. Voilà,
alors, tu es en voyage.
Alors,
restez, un personnage de l'État.
Restez chez vous, ne sortez pas.
Mais non, c'est le président du Conseil constitutionnel
le débat. Les découvertes d'Europe Midi, je salue dans ce studio Eva Rock, donc. Merci Eva. Thierry Geffrotin, Olivier Pouze, bonjour à vous trois.
Bonjour Maxime.
Quels sont vos coups de cœur du jour, Eva Rock?
Apocalypse Verdant, vous avez parlé tout à l'heure avec votre invité historien. J'y reviens, c'est sur France 2, dimanche à 20h55.
Thierry Geffrotin.
Le dictionnaire de Grégoire et le loup et l'agneau. Deux livres, l'esprit d'Alphonse Allais va souffler dans ce studio.
Olivier Pouls.
Et moi, je vous emmène dans le Luberon. Le Luberon à la découverte d'une nouvelle adresse. Bah, pourquoi
bah, et moi, je vous emmène. Oh non.
Emmène
en week-end dans le Luberon.
Une nouvelle adresse
gastronomique. Fort sympathique.
On verra ça dans un instant. Voilà le programme du jour. Mais d'abord, Jean-Michel.
Je voudrais déclarer ici publiquement mon soutien au projet de loi de Myriam El Khomri. Parce qu'il permet de vider plus facilement certains salariés qui vous emmerdent. Mathieu Noël.
Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour à tous.
Quel accueil.
Eh ben oui, je passerai
la compta tout à l'heure.
Ouais.
Mathieu, en écoutant l'émission de mercredi, notamment la partie consacrée à la réforme du permis de conduire, vous avez enfin été en mesure d'identifier le mystérieux chauffard qui, il y a 2 ans, vous avez coupé la route tout phares éteints en hurlant « Boga, boga ».
En effet, Maxime. Tout d'abord, je vous propose d'écouter une archive de l'auto-école de Guétari, examen du 6 mai 77.
Bon, monsieur, première question. Vous montez dans votre voiture, celle-ci ne veut pas démarrer, que faites-vous?
Bah, je descends, puis je file un grand coup de pente dans cette saloperie de bagnole.
Dans l'affaire qui me concerne, la police n'avait jamais retrouvé le conducteur de ce rutilant Hummer H1 aux jambes de 24 pouces dorées qui circulait à contresens sur la D810 en direction d'Oloron-Sainte-Marie. Individu de type caucasien dégarni qui, lorsque les policiers lui ont demandé de s'arrêter, leur a simplement répondu laconique.
Je m'en fous.
En accélérant et en leur tendant par la vitre un royal doigt d'honneur. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Nous sommes le 7 juillet 2014 sur la D810, direction Oloron-Pau. Un honnête citoyen suisse en vacances dans votre pays roule paisiblement dans sa modeste Kia Sorento un lit pour rejoindre une auberge tout aussi modeste, sorte de relais routier, les Prés de Génie, tenu par un certain Michel Guérard.
Absolument.
Oui, une adresse correcte. Soudain, tout bascule. Surgit de nulle part et zigzagant au milieu de la route, un énorme 4x4 rouge flanqué d'un autocollant Adichat me fonce droit dessus. Il fait une première embardée, écrase un chat.
Miaou !
Admirablement interprété pour la reconstitution par Diane Chenouda. Le 4x4 fou ne ralentit toujours pas. Je vois ma dernière heure arriver, ma vie défiler devant mes yeux. Vous savez ce que c'est dans ces moments-là? On pense à ce qu'on a de plus cher.
Des fondations, une en Suisse, une au Liechtenstein.
Bien sûr, mais des souvenirs plus personnels aussi, voire même traumatiques, comme cette comptine que me chantait ce monsieur bizarre qui m'attendait à la sortie de l'école avec un grand imper noir et une boîte de Colity Street.
À vous dirai-je, maman.
J'avais 8 ans.
Bon, je suis un petit canaillou.
Petit canaillou, 10 ans de psychanalyse, moi, derrière. Dans cette seconde fatale, je pensais aussi évidemment à ma précieuse Eva, Miss T-shirt mouillé Mandelieu 92, qui était à côté de moi dans le siège passager et qui, quelques instants plus tard, volerait à travers le pare-brise comme une poupée de chiffon. Quant au petit Maxou qui dormait derrière dans son siège Isofix, je réalisais avec horreur que j'avais oublié de clipser la tâche. Oh, l'impact a été violent. Les séquelles physiques lourdes, puisqu'Eva et Max ne retrouveront jamais tout à fait l'usage de leur mâchoire, qui restera déformée pour toujours. Handicap considérable quand on est journaliste.
Du fonds de gestion des victimes de terrorisme, du fonds de garantie des gestions des victimes de terrorisme, qui refuse d'être examiné par un homme. C'est sans doute l'une des dernières grandes réformes du quinquennat Hollande, réforme du droit du travail.
Au cœur de logistique,
comme l'avait suggéré le chirurgien, si la mâchoire ne retrouve pas sa mobilité, la presse écrite pourrait être une solution.
Même une conseillère Pôle emploi m'avait déjà fait la remarque.
Bien sûr, je suis sûr qu'une belle carrière au courrier Picard t'attend, mon grand. Bref, après avoir écrasé la Kia qui n'était plus qu'un amas de tôle, le chauffard chauve a pris la poudre d'escampette. Malgré les indices retrouvés sur les lieux de l'accident, notamment une poupée vaudou à l'effigie d'Edoui Plenel, le chauffard n'avait jamais été identifié jusqu'à ce que 2 ans plus tard, il passe lui-même même aux aveux à l'antenne au détour d'un débat sur le permis de conduire.
Vous l'avez, bien sûr.
Bien sûr que je l'ai, le permis de conduire.
Premier coup, deuxième coup.
Premier coup.
Et vous, Anissa ?
Premier coup.
Et vous ?
Quatrième coup. La première fois, il m'a dit, l'examinateur, il m'a dit, vous allez trop vite. Bon, le truc. La deuxième fois, il m'a dit, ce con, c'est pas le même, mais vous allez trop doucement. La troisième fois, je me souviens plus. Mais la quatrième, je l'ai eu.
Dieu soit loué, la quatrième a donc été la bonne. Et le fait que Jean-Michel ait invité son examinateur dans les coulisses du Grand Journal pour qu'il puisse rencontrer Nicole Kidman, son idole, n'a rien à voir avec ce succès. Heureusement, grâce au progrès de la chirurgie reconstructrice, Eva a pu être tapée. Le chirurgien s'était montré très optimiste et son discours nous avait rassurés.
Des greffes en 3D, on met du carton et des organes et tout ça, voilà, ça vous ressoude par exemple une oreille. Il y a du matériau synthétique plus des organes vivants. On mélange le tout et ça peut faire des organes.
Du matériau synthétique plus des organes vivants, on mélange le tout et ça peut faire des organes. On n'est même plus dans la vulgarisation, on est dans l'atelier pâte à modeler pour les enfants déficients. Enfin, dans Europe Midi les zouzous, il n'y a pas qu'en science qu'on soit pointu. En jazz aussi, on n'est pas mauvais.
Ah oui.
Sans revenir sur l'incident dit du contrebassiste qui s'était mis à la trompette, mais pas vraiment parce qu'en fait...
Il s'agissait de... deux personnes totalement différentes.
J'ai promis à quelqu'un que j'aime beaucoup de ne pas le faire. Je me contenterai de signaler dans le même ordre d'idées l'incroyable parcours intellectuel de Foucault, fondateur d'une pensée qui a révolutionné la philosophie française à travers des œuvres puissantes comme notamment Surveiller et Punir.
Ouais. Ah ouais.
Et dans mon parcours que celui de ce Foucault, professeur émérite au Collège de France, qui sur le tard, certainement pour se faire un peu de maille, rejoindra TF1 présenter Sacrée Soirée.
C'est incroyable.
Comme vous dites. Voilà les amis, je vous laisse méditer ces étranges coïncidences. Je vous laisse passer un bon week-end en amoureux à la neige, Jean-Michel, puisque Nathalie Rouet a un peu vendu la mèche.
30-40 cm, prévoyez les équipements spéciaux.
Oh oui, prudence. Ça va glisser, surtout. Pas de hors-piste, Jean-Michel.
Un commentaire, Jean-Michel ?
Non, aucun commentaire.
Aucun commentaire. Merci beaucoup, Mathieu Noël. Il est vraiment temps que le week-end arrive. Dans un instant, la suite des découvertes sur Europe 1. Tout de suite.
Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Et à 13h52 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec au programme aujourd'hui de la gastronomie, votre week-end de télé et de la lecture.
Et d'abord alors, l'apocalypse est baroque.
Oui, je sais pas comment je dois le prendre.
L'apocalypse Verdun, oui. C'est ce soir. Dimanche sur France 2, 20h55.
Oui, vous savez, c'est l'événement télé du week-end. Isabelle Clarke et Daniel Costel présentent un nouveau volet de leur série documentaire historique. Alors là, ça s'appelle Apocalypse Verdun. 500 heures d'archives pour un film d'1h30 avec des images colorisées, vous savez, comme à leur habitude, et sonorisées pour revivre la bataille et ses à côté. Écoutez ce qu'écrit un soldat français et qui est récité par Mathieu Kassovitz.
La nuit mugit des reflets d'enfer. Soudain, les ténèbres se déchirent. De tous les points de l'horizon, jaillissent des lueurs d'apocalypse.
Alors ça, c'est dans la première semaine du combat. Et effectivement, ils ont retrouvé beaucoup de correspondances qu'ils récitent au fur et à mesure des images qui sont violentes parfois, qui contrastent surtout avec les sourires des soldats dans leurs tranchées, où on comprend qu'ils ignorent totalement ce qui les attend. Le récit est truffé de détails, on passe d'un personnage à l'autre. Et on apprend au détour d'une phrase qu'un jeune capitaine de 26 ans a été blessé lors des premiers jours. Il s'appelle Charles de Gaulle. Et écoutez la suite.
Blessé, il est évacué en Allemagne avec des centaines de ses camarades. Mais il est d'abord déclaré mort et décoré à titre posthume avec cette citation signée Pétain. Le capitaine de Gaulle, réputé pour sa haute valeur intellectuelle et morale, est tombé dans la mêlée. Officier hors pair à tous égards.
C'est un des éléments qu'on apprend au fur et à mesure du récit, c'est assez étonnant. Alors autant le dernier Apocalypse qui était consacré à Staline ne m'avait pas du tout convaincu, autant ce volet mérite vraiment le détour. Le récit est très travaillé, c'est précis, les archives sont étonnantes évidemment. Et on croirait regarder vraiment une reconstitution historique, malheureusement ce n'est pas le cas puisque ce sont de vraies images.
Apocalypse Verdun, France 2, dimanche 20h55. Avant ça, vous avez un bonus pour nous, le téléfilm L'Annonce.
Oui, c'est plus léger, plus frais, c'est la fiction d'Arte ce soir à 20h55 et c'est porté par Alice Taglioni. Elle incarne une maman célibataire qui part s'installer à la campagne chez un agriculteur qu'elle a rencontré via une petite annonce.
C'est L'amour est dans le pré.
Non, bah c'est justement, c'est très très loin de L'amour est dans le pré, vous allez voir. Mais c'est une très jolie comédie sentimentale, je vous la recommande.
Et c'est donc ce soir L'Annonce sur Arte. Oui. Merci Eva Rock. Olivier Pouls, vous nous emmenez donc aujourd'hui dans le Luberon.
Oui.
Pour découvrir une nouvelle adresse.
Exactement, une belle adresse et une jolie histoire aussi, puisqu'il s'agit du domaine de Fontenil. Alors, le domaine de Fontenil était un grand domaine viticole dans les années 90, qui avait connu ses heures de gloire, qui produisait sans doute l'un des meilleurs vins de la région d'ailleurs. Et puis, bah, malheureusement, dissension familiale, manque de moyens, il était tombé en désuétude. Et en 2013, il a rencontré ses deux princes charmants, Frédéric Bius, ancien PDG d'un groupe de mode, et Guillaume Fouché, qui lui est galeriste. Ouais. Ils ont décidé de racheter le lieu et d'en faire un vrai lieu de vie, alors dédié en partie au vin, mais aussi à l'art et à la gastronomie. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque pour la gastronomie, ils ont fait appel à Jérôme Faure, qui est un jeune chef qu'on avait connu à l'hôtel du Golfe dans le Vercors, et qui donc prend les commandes de ce restaurant, de deux restaurants même, devrais-je dire, puisqu'il y a un restaurant à vocation gastronomique, et ils ne s'en cachent pas, ils sont à la recherche d'une étoile pour l'année prochaine, donc autant vous dire qu'ils ont mis les moyens. Ah oui. Et puis, un restaurant qui va ouvrir dans les jours qui viennent, qui sera plutôt ambiance tapas. Et ce que je vous recommande, c'est de profiter de ce moment, où, vous savez, où les restaurants veulent aller chercher l'étoile, où ils mettent les moyens, où ils donnent carte blanche au chef, et où c'est bon et pas trop cher.
Bon et pas trop cher. Vous avez dégusté quoi et pour quel prix ?
Alors, à 30 euros le midi, vous avez une formule qui est épatante avec une mise en bouche, une entrée, un plat et un dessert. C'est en fonction du marché. Donc, le chef crée tous les matins, en fonction et de son inspiration et des produits qu'il a, une série de plats, de réalisations. Alors, c'est toujours assez créatif. On peut manger, par exemple, du taureau de Camargue, délicieux, accompagné de betteraves en différentes textures, avec de la mousseline de betterave, de la betterave crue pour donner du croquant, un petit peu de crône, les crônes du Japon, si chères.
Les crônes du Japon, ça fait longtemps.
Mais moi, je mange pas. Exactement. Et
je n'en dirai pas plus.
Et une petite touche d'eau de rose dedans pour parfumer. Fumer ça. Il y a un menu végétal aussi le soir, aux entours d'une quarantaine d'euros. Bref, c'est une table assez solide qui va sans doute faire parler d'elle dans une région magnifique en plus. Et puis côté viticole aussi, on peut aller visiter la nouvelle cave qui a été construite et qui, dans les années à venir, là aussi permettra au domaine de progresser en termes de qualité de vin. Et puis aussi un espace d'art, puisque l'un des deux, je vous le disais tout à l'heure, le propriétaire est galeriste, et donc il y a des expositions qui tournent. Et puis un hôtel de luxe pour Jean-Michel éventuellement, ou pour Mathieu, s'ils ont des week-ends, aller passer là-bas. Là, pour le coup, c'est un petit peu cher.
Un auditeur nous disait que le travail que faisait Caroline Pigaudy, c'est-à-dire un journaliste qui suit les religions, c'est très difficile. Mais je crois que votre forme de journalisme, Olivier, est encore plus difficile.
Eh bien, je paye de ma personne quotidiennement et je continue à le faire pour vous, Jean-Michel.
C'est très gentil, Olivier, je vous remercie.
Le domaine de Fontenay, c'est donc à Loris dans le Luberon. Merci, Olivier Pouls. Thierry Geffrotin, vous êtes venu avec deux livres
que l'on doit à des académiciens. M'attendez pas ceux du Quai Conti, pas l'Académie française, ceux de l'Académie Alphonse Allais.
Dont vous êtes.
Dont je suis, oui.
Nous avons un académicien.
Donc l'Académie Alphonse Allais, créée en 1954 par Henri Janson, pour entretenir la flamme d'Allais, évidemment, qui compte en son sein, je tiens à le dire, des gens, des personnalités comme Alain Decaux, Philippe Gueluc, François Morel, René de Obaldia, bref, que du beau monde.
Et vous avez un habit bleu.
Alors on s'habille comme on veut. On met surtout un nez de clown. Hein. Et donc, il y a trois académiciens qui viennent de sortir deux livres. Je suis sûr qu'Alphonse Allais les aurait aimés, ces livres. Le premier a pour titre Le Bictionnaire de Grégoire.
Bictionnaire.
Oui, je vois que vous tiquez. En fait, c'est très simple et son auteur, Grégoire Lacroix, vous explique lui-même ce qui se cache derrière ce néologisme.
Acrobatie aérienne, définition looping à ne pas louper, ou bien alcoolique anonyme, individu tellement alcoolisé qu'il ne sait plus comment il s'appelle. C'est ce que Alain Rey, qui a bien voulu faire la préface, a appelé l'alphabègue de Grégoire.
Alors en fait, il prend à chaque fois deux mots qui commencent par la même lettre. Alors je vais vous donner un autre exemple. Bœuf bourguignon, animal arriviste qui cherche à se faire la compagnie de grosses légumes. Ça plaira à Olivier. Qui fait une croque, qui fait une croque, se faire un ami d'un demi.
Oh.
C'est pas mal, hein. Voilà pour le premier livre. Le deuxième a un titre qui interroge beaucoup moins et qui appelle moins d'explications. C'est Le Loup et l'Agneau de Xavier Jaillard et Claude Turier. Il s'agit de Fables Express. Mais qu'est-ce que une Fable Express? Réponse de Xavier Jaillard.
Il y a plus de 100 ans, Alphonse Allais, qui a été quand même le prince des humoristes loufoques, avait eu l'idée de faire un certain nombre de fables qui étaient des fables express, c'est-à-dire qu'il faut, en le moins de vers possible, illustrer une moralité. Alors, je peux vous donner un exemple de ça. Il écrit « Devenu le mari d'une exécrable rosse, après la nuit de noces, il la tua dès son réveil. » Moralité, La nuit porte conseil.
Alors, moi j'en ai. Alors ça c'est d'Alphonse Allais. Voici maintenant le travail de Claude Turier et Xavier Jaillard. Don Quichotte attaqua, mais le moulin avant, ce traître le frappa par derrière et devant. L'or, n'ayant rien de mieux pour faire thérapie, son fidèle écuyer le couvrit de charpie. Moralité, l'un avait le sang chaud et l'autre le pansa. Joli, n'est-ce pas? Donc le loup et l'agneau de Xavier Jaillard et Claude Turier chez Scrinéo et le Bictionnaire de Grégoire par Grégoire Lacroix chez Max Milo.
Et j'ajoute un troisième livre. On ne badine pas avec l'humour d'Allais, c'est de Jean-Pierre Delaune aux éditions Minibus.
Ah, ça doit être Omnibus.
Omnibus.
Minibus, je disais l'esprit d'Alphonse Allais a soufflé, mais pas sur vous, Maxime.
Très bien. Bon.
Merci Thierry.
C'était une belle chute.
Merci Thierry Géfrantin. Merci à toute l'équipe. À lundi, Jean-Michel Apathy. Vraiment temps qu'on part en week-end.
À lundi, Maxime. À lundi, Anissa.
À lundi, Jean-Michel.
Pour une nouvelle édition d'Europe Midi. Et j'accueille tout de suite Franck Ferrand au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Et oui, bonjour Jean-Michel. Il y a 100 ans, on s'apprêtait à sombrer dans l'enfer de Verdun. Nous célébrons aujourd'hui ce centenaire.
Merci Franck. Bonne émission.